Vous savez que c'est marqué dans le pasouk. Alken yazov ish et aviv et imo. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Veyul basar echad, ils formeront une seule chair. Vedavak beishto, il collera à sa femme. Veyul basar echad, ils formeront une seule chair. Alors, ce pasouk, il parle de Adam et Ève. Il parle de la construction du couple, a priori. Donc, c'est marqué qu'un homme doit quitter son père et sa mère. C'est une logique. Un homme, quand il se marie, une femme, quand elle se marie, elle coupe le cordon ombilical. Ensuite, c'est marqué Vedavak beishto, il va coller avec sa femme. Et ça, c'est tout le travail de construction du shalom bayit, que ça, tout le monde est au courant. Alors, qu'est-ce que c'est? Et après, c'est marqué Veyul les basar echad, ils formeront une seule chair. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas sur place? Il dit Avlad notsar mishneem, l'enfant, il est conçu à partir des deux, Vesham besaram neaseachat, et là-bas, leur chair fera un. Pourquoi est-ce que Rashi, alors que le verset, il a l'air de parler de la construction du couple, il a l'air de parler d'amour, pourquoi est-ce que Rashi, d'un seul coup, il parle de l'enfant? Quel rapport? Oui, on reprend, c'est simple. Oui, c'est marqué. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. D'accord. Alors, un homme, il quitte ses parents, il rentre chez sa femme. Une femme, elle quitte sa mère, ses parents, elle rentre chez son mari. C'est bien. On a compris. On coupe le cordon ombilical. Très bien. Après, c'est marqué Davak Beishto. Il collera avec sa femme. Donc ça, c'est toute la construction dont on parle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on parle de Shalom Bayit, on parle de Shalem. Shalom dans la Torah, ça veut dire entier. Shalom, ça veut pas dire comme dans la rue. C'est quoi la notion du shalom dans la rue? Quand on parle de paix dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun chez soi. Toi, t'es chez toi, moi, je suis chez moi, on est en paix. Pour ça que quand vous dites à quelqu'un, je veux faire la paix, il te dit, fiche-moi la paix. Tu veux la paix? Fiche-moi la paix! Alors que nous, shalom, ça veut dire shalem. Shalem, ça veut dire, je suis en paix avec toi. Donc le mot shalom pour nous et le mot shalem, on peut pas les séparer. Maintenant, un homme et une femme, ils vont tout faire pour être en paix l'un avec l'autre. C'est-à-dire, traduction, pas être en paix ensemble. Ils vont être en paix l'un avec l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais être entier avec toi, toi, tu vas être entier avec moi. Alors, toute la notion de la construction du couple, c'est d'arriver à comprendre combien est-ce que l'homme peut apprendre de sa femme et combien est-ce que la femme peut apprendre de l'homme. Or, on est maître et élève de son conjoint. On a des choses à enseigner, on a des choses à apprendre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que chaque âme, vous le savez, elle a des caractéristiques uniques. C'est pour ça que chaque âme, elle est unique. Maintenant, l'âme de l'homme et l'âme de la femme, c'est la même. On a coupé l'âme en deux, on a mis la moitié dans un corps d'homme, la moitié dans un corps de femme. Ensuite, il y a le shalom à construire, la paix à construire. Donc, un homme, il va faire un avec sa femme, la femme va faire un avec le mari. Nous, on pense, à quoi ça sert? Ça sert à faire le shalom bayit. Comme ça, on pense. Rachid dit, non, pas du tout. Ça, c'est la phase la plus externe. La phase la plus externe, c'est qu'un homme, il fait un avec sa femme, la femme fait un avec le mari. Mais dans quel but? Alors, la Torah t'a donné le programme. La Torah t'a dit, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Très bien. Vedavak beishto, il collera avec sa femme. Ça c'est quoi? C'est la deuxième phase. C'est la phase shalom. C'est la phase de paix, c'est la phase de construction. Dans quel but? Alors la Torah t'a dit, veyou le basar echad, ils formeront une seule chair. C'est quoi ils formeront une seule chair? Nous on pense, c'est l'harmonie dans le couple, c'est la construction, c'est l'unité. Non. Rachid a dit, avla notsar mishneem, l'enfant il vient des deux. Ça veut dire que l'enfant, il va être la projection du shalom entre l'homme et la femme. Un enfant, il a besoin d'un père et une mère. Pourquoi? Vous avez jamais demandé ça? À quoi ça sert? Oui, on aurait dû faire. Si quelqu'un il a fait un peu de psychologie, il sait comment marche un homme, il sait comment marche une femme. Il voit que l'homme et la femme, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir, deux planètes. Ça n'a rien à voir. Donc nous, on aurait pu imaginer que les filles, elles doivent naître des mamans. Et que les garçons, ils doivent naître des garçons, des femmes, des parents, des pères, je veux dire. Hachem, il aurait fait un appareil génital pour le père, pour qu'il ait des garçons. Il aurait fait un appareil génital pour la mère, pour qu'elle ait des filles. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, c'est deux espèces qui n'ont rien à voir, c'est deux genres qui n'ont rien à voir, deux systèmes. Non. Hachem, il a voulu que chaque enfant, fille ou garçon, il ait un père masculin et une mère féminine. C'est bizarre. Alors qu'au niveau approche, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau hormonal, les filles et les garçons n'ont rien à voir. Et pourtant, un homme, il a besoin d'un père et d'une mère. Oui? Mais ouvrez bien vos oreilles. Et ça, malheureusement, les scientifiques, ils sont encore loin de ça. Les scientifiques, ils ont découvert la génétique. Il faut leur dire, Hazak. Mais ils sont loin du problème. Ils sont très très loin. Parce que la Torah, déjà, il y a 3000 ans, elle parle de l'homogénéité génétique. C'est-à-dire que quand deux êtres qui sont différents, ils se mettent ensemble, alors il va falloir créer une homogénéité pour qu'au niveau de la semence, il y ait aussi une homogénéité. C'est que quand la Torah elle dit un homme il fait un avec sa femme, il dit le Zohar, l'homme il fait un avec sa femme dans la tête, ils se comprennent. L'homme il fait un avec sa femme dans le cœur, ils s'aiment. Et l'homme il fait un avec sa femme dans le corps. Alors c'est marqué là-bas, Ve kutcha berichu nimtsa sham. Et Hachem il est là. C'est Parashat Kedushim, le Zohar Parashat Kedushim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle pense que quand un homme retrouve sa femme et qu'ils font un, alors ils vont faire la chose la plus importante au monde. Ils vont procréer. Mais procréer, ça veut dire qu'ils vont créer ensemble. Comment ils vont créer ensemble? Parce qu'il y a des éléments qui vont venir de l'homme et des éléments qui vont venir de la femme. Mais comment ces éléments qui vont se rejoindre, ils vont faire un? Est-ce que vous comprenez? Dans quelle mesure ils sont compatibles? Aujourd'hui, on fait beaucoup d'informatique. Vous achetez un logiciel. Est-ce qu'il est compatible? S'il n'est pas compatible, il ne va rien apparaître sur l'écran. Alors, l'enfant, c'est l'écran des parents. Mais si les éléments ne sont pas compatibles, qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'écran? Donc, l'homme, il doit être compatible avec la femme. La femme, elle doit être compatible avec le mari. Alors ça, c'est quoi? C'est Shalom Bayit. Shalom, c'est Shalem. C'est quoi Shalem? C'est que les deux, ils soient ensemble. Quand les deux, ils sont ensemble, Rachid a dit, à l'intérieur de l'enfant, tu vas retrouver l'unité des parents. Donc quand on parle des enfants, on est obligé de parler d'avant la naissance, depuis la conception, parce que les éléments de base, ils sont donnés au moment de la conception. Après, ça va être sur cette base de travail. Vous voyez? On va dire qu'on nous distribue la terre glaise au moment de la conception. Après, avec cette terre glaise, chacun il va faire ce qu'il peut faire. Un il va faire une statue, l'autre il va faire un chef-d'œuvre, l'autre il va faire un massacre. Chacun il va faire ce qu'il peut faire. Mais la base, elle commence à ce moment-là. Parce que sinon, Rashi, qu'est-ce qu'il a besoin de nous parler? De l'enfant. C'est marqué. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, et il collera avec sa femme, et ils formeront une seule chair. Voilà, je vous ai donné la traduction du pasouk. Pourquoi Rashi dit, et ils formeront une seule chair, c'est quoi? Il dit, Avlad Yotzar Mishneem, l'enfant, il est conçu à partir des deux, Vesham, Vesaram, Naase, Achat, et là, leur chair fera un. Tout le monde connaît la Gemara dans Nida, qui dit que tout ce qui est blanc chez l'enfant, les os, la peau, tout ce qui est blanc, ça vient du père, parce que la semence est blanche. Tout ce qui est rouge chez l'enfant, ça vient de la mère. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il donne la Neshama, il donne la parole, il donne l'ouïe et la vue. Non, je ne vais pas rentrer trop pour expliquer pourquoi est-ce qu'Hachem il donne cette partie plutôt qu'une autre partie. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre, c'est que l'homme et la femme et Dieu sont associés à 100% dans la création de l'enfant. Donc quand c'est marqué dans le Zohar, « Vekutcha berichu nimtza sham », que Hachem il est là au moment de la conception, c'est normal. Parce qu'il fait partie intégrante, il est associé à la création de l'enfant. D'accord? Maintenant, comment il est là Hachem? Comment il est là? C'est très simple, Rabotai. Pourquoi? Ça, je sais, vous le savez déjà, mais je vous le redis parce que ça rentre dans le cadre de la conférence. Et si vous ne le savez pas, Chazak Baruch, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est quoi l'amour? L'amour, en hébreu, c'est Ahava. Ahava, Gematria, 13. Echad, Gematria, 13. L'amour et Echad, c'est la même chose. C'est de faire un. Maintenant, où est-ce qu'on peut faire un? Faire un dans le corps, c'est pas possible. Faire un dans le vécu, on fait des compromis. Faire un dans le psychique, on fait des compromis. Où est-ce qu'on peut faire un? Dans la Neshama. Les deux Neshamot, elles font un. Maintenant, un homme, il a une obligation, comme une femme, ce qu'on appelle, ce qu'il dit le Maharal de Prague, la tset mina koach et la poal, dépasser du potentiel au réel. Donc une personne, elle a une obligation d'exister. Maintenant, moi en tant qu'homme, j'ai une obligation d'exister. Toi en tant que femme, tu as une obligation d'exister. Alors maintenant, il dit le Maharal de Prague. C'est quoi exister? C'est que ton ratson, ta volonté, elle s'exprime dans la réalité. Tu existes, en français. D'accord? Se réaliser, ils disent les psychologues. Et la Torah, elle dit, la tset mina koach la poal, passer du potentiel au réel. Maintenant, moi, j'ai obligation d'exister. Je dois exister. De toute façon, célibataire ou marié, je dois exister. Toi, célibataire ou marié, ma femme, tu dois exister. C'est quoi l'amour? Maintenant, si exister, c'est exprimer sa volonté dans la réalité. D'accord? Si vous regardez au niveau de la Kabbalah, ça veut dire quoi? Parce que c'est marqué « Aratson novia mina neshama ». Le Ratson, il sort de la neshama. Donc nous, on va dire que le Ratson, c'est quoi? C'est la représentativité de l'existence de l'homme. Ma volonté existe. Ta volonté existe. Alors, c'est quoi l'amour? Il dit le Maharal de Prague « Ahava zeshaviut aretsonot ». L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Quand les deux volontés, regardez bien, elles se rejoignent, on appelle ça l'amour. Comment on dit en français? Toi, tu existes, moi, j'existe. Et l'amour, c'est quoi? On coexiste. C'est là-dessus que la Torah, elle a dit shalom. Le shalom, c'est apprendre à coexister avec l'autre. Oui ou non? Vous comprenez ça? Donc, l'amour, c'est la coexistence. Maintenant, c'est vrai que pour arriver à la coexistence de la Neshama, il faut une coexistence de l'esprit, qu'on se comprenne. Il faut une coexistence des sentiments, du cœur. Et il faut une coexistence physique. Maintenant, quand toi, tu veux te rapprocher de l'intérieur de ta femme, et ta femme, elle veut se rapprocher de ton intérieur, automatiquement, les deux corps, ils vont se rencontrer. Mais le but, c'est quoi? C'est que toi, tu sois marié avec la personne de ta femme, son jeu, c'est sa Neshama, et qu'elle soit mariée avec ta personne à toi, ton jeu, c'est ta Neshama. Quand les deux Neshamot, elles sont en shalom, on dit que les deux personnes, elles coexistent. Oui ou non? Maintenant, n'oubliez jamais, mettez-vous bien dans la tête, que ne peuvent coexister que des personnes qui existent. Donc les problèmes de shalom, ce sont toujours des problèmes d'existence personnelle ou ce sont des problèmes de conformité, de coexistence. C'est-à-dire, est-ce que moi je suis adapté à ta façon d'exister? Maintenant, si moi je t'empêche d'exister, j'ai aucune chance de coexister. Parce que pour coexister, il faut exister. Donc maintenant, un homme, il a trois obligations. Comme une femme. Quand je dis homme, c'est homme et femme. Attention, ne commencez pas à me dire, hé les hommes. Pourquoi exister? Il y a trois buts à remplir maintenant dans la vie. C'est facile à comprendre. Premier but, c'est exister. Deuxième but, c'est faire exister. Troisième but, c'est coexister. Exister, c'est être soi-même, se réaliser. D'accord? Faire exister, c'est faire exister soi-même. Respect de soi-même. Faire exister sa femme. Faire exister son mari. Faire exister ses enfants. Faire exister sa communauté. Faire exister la Torah dans le monde. Et faire exister Dieu. Chaque juif, il a une mitzvah de faire exister Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire exister Dieu? Ça veut dire que Dieu, il n'a dans ta vie que la place que tu lui laisses. Donc quand tu accomplis les mitzvot, tu laisses la place prioritaire à Dieu. On appelle ça faire exister Dieu. Dans ta parnassa, Dieu, il existe parce que tu habites à Chon. Dans la réalité, Dieu, il existe parce que tu le fais intervenir. Yarbi. Oui? Donc Dieu, il existe dans ta réalité. Tu le fais exister. Troisième but, coexister. Tu as une mitzvah de coexister avec tous les bnei Israël. C'est marqué Ve'ahavta le'reacha kamocha. On a dit que l'amour, c'est quoi? C'est de faire un avec l'autre. Donc de coexister avec l'autre. Tu as une mitzvah de faire un avec Dieu, c'est marqué Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. D'accord? Voilà les trois buts. Maintenant, à partir de ces trois buts, vous pouvez faire rentrer toute la Torah dedans. À un niveau ou à un autre. Rappelez-vous, exister, faire exister, coexister. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, il m'a obligé à exister avec ma femme pour le shalom. Donc il m'a obligé à faire exister ma femme, parce que je ne peux pas exister avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc dans ma mitzvah de faire exister, j'ai de faire exister ma femme. Comme ma femme, elle a une obligation de faire exister son mari. Maintenant, il y a des éléments qui sont indispensables à la femme qui sont chez le mari. Et il y a des éléments qui sont indispensables au mari qui sont chez la femme. C'est vicieux, hein? Regardez comment Hachem il a fait. Hachem, il a fait qu'un homme il doit être indépendant et qu'une femme doit être indépendante. Et pourtant, il y a des éléments que la femme a besoin qui sont chez le mari. Et il y a des éléments que le mari a besoin qui sont chez la femme. Je vous donne un exemple. On ne va pas faire le cours du Shalom Bayit. Mais je vais vous montrer après les retombées que ça va avoir au niveau de l'enfant. C'est simple. Une femme, c'est marqué dans la Torah, « Ve'uim sholbar ». Et l'homme, il va te dominer. C'est-à-dire que l'homme, il va dominer la femme. Alors les commentateurs, ils expliquent, c'est pas dominer la cravache et le fouet. Dominer, ça veut dire sécuriser. Une femme, elle a besoin d'être sécurisée par son mari. Pour qu'une femme soit sécurisée par son mari, il faut que son mari soit un homme. Quand un homme se marie, c'est un jeune adolescent. Oui, ou l'un gigolo, ça dépend. Maintenant, quand il se marie avec une femme, il est obligé de devenir un homme, puisque sa femme a besoin d'un homme. Donc la femme va obliger l'homme à devenir un homme. Donc l'homme, il va exister homme, regardez bien, il va exister homme grâce aux besoins de sa femme. Vous me suivez? Maintenant, le fait que l'homme, il va exister homme, il va être un homme, c'est nécessaire pour la femme parce que ça sécurise la femme, comme elle a dit la Torah, mais en même temps, ça va servir à l'enfant pour qu'il ait un père. Parce qu'un homme ne peut pas devenir un père s'il n'est pas un homme. Jamais un gamin, il peut devenir père. Il faut qu'il soit homme d'abord. Donc grâce à sa femme, il va devenir homme, et grâce à son enfant, il va devenir père. Donc quand la Torah, elle a fait que la femme, elle a besoin de l'affirmation du mari, en même temps, elle est en train d'éduquer son mari à devenir un père. Et quelque part, le mari, c'est un peu le père de la femme. C'est pas grave, vous savez pourquoi? C'est parce que de toute façon, la femme, c'est un peu la mère du mari. Pourquoi il l'appelle maman? Genre parce qu'il y a des enfants, il l'appelle maman. Et pourquoi il veut qu'il cuisine comme sa mère? Et pourquoi il lui dit tout le temps, va chez ta mère? Alors il dit, je suis chez ma mère. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez trouver dans la construction du couple, vous allez le trouver dans l'éducation des enfants. La seule différence, c'est que le stage théorique, c'est le Shalom Bayit, et le stage pratique, c'est l'éducation des enfants. Comme l'école. C'est quoi l'école? L'école, c'est la théorie de la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est la pratique de l'école. Tu as appris la comptabilité, Hazak. Quand est-ce que tu vas mettre en pratique? Quand tu vas travailler. Ah, regardez bien, maintenant que tu as travaillé, tu as compris ce que tu as appris à l'école. Oui? Oui ou non? Mais tant que tu ne travailles pas, tu n'as rien pigé. Tu dis, oh, mais j'ai eu 19 au BTS. J'ai eu 19 quand j'ai passé le contrôle d'expertise comptable. Tu veux savoir? Zéro. Tant que tu n'es pas dans la réalité, la connaissance c'est zéro. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué Veyadarta, Vehashivota et Levecha. Tu sauras, tu connaîtras, Vehashivota et Levecha, et tu fixeras en ton cœur. Il dit le Rav Simcha Disel, Veyadarta c'est quoi? C'est, tu connaîtras. C'est quoi ça? C'est Ene Asechel. C'est les yeux de la tête. Vehashivota et Levecha, tu vas graver en ton cœur, c'est quoi? C'est que ça devient pour toi une réalité. Maintenant, dites-moi, même en français, vous savez ce que ça veut dire comprendre en français? Comprendre, c'est ce que veut dire. Oui? Pourquoi comprendre, ça s'écrit comme prendre? Comme prendre. Pourquoi en français, on dit, t'as saisi ce que je t'ai dit, t'as saisi cette idée? Comment on saisit une idée? Vous avez déjà essayé d'attraper une idée? À la pêche, comment vous attrapez une idée, vous? Rabotai, c'est simple, c'est marqué. Adam yada et trava. Et Adam, il a connu sa femme. Il dit, le Maharal de Prague, pourquoi la Torah, pour exprimer une relation sexuelle, elle a dit connaître? Il répond le Maharal de Prague, parce que tant que tu ne fais pas corps avec quelque chose, tu ne le connais pas. De la même manière, quelqu'un il parle. S'il ne fait pas corps avec la chose, il n'a rien compris. Moi toujours à mes élèves, je leur dis, tu sais quoi, tant que tu n'as pas vécu quelque chose, ne dis pas j'ai compris, habitue-toi, ne dis pas j'ai compris. Parce que tu vas perdre du temps. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient ou ils réfléchissent et ils disent j'ai compris. Mais en vérité, elle n'a rien compris. Parce que comprendre, c'est comme prendre. Ça veut dire que tu as vraiment saisi, c'est-à-dire que tu as vécu la chose. Or, quand tu fais corps avec la chose, maintenant tu as compris. Tu peux faire 10 ans d'enseignement de pédagogie à la fac. Tant que tu n'as pas eu 5-6 enfants qui t'ont mis une rhumma profonde, tu sais pas ce que c'est la pédagogie, tu laisses tomber. Tu dis mais comment? Mais enfin, zéro. Parce que Vayadarta, Vehashevota. D'abord, tu fais rentrer les choses dans ta tête. Ene Asechel, tu les comprends. Et après, tu les vis. Et quand tu les vis, maintenant, tu les comprends. Ça veut dire que tu ne fais pas un avec la chose tant que tu ne l'as pas vécu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des enfants avant d'avoir des enfants. Alors, comment on va faire? Toujours quand vous faites un cours sur l'éducation, les gens, ils vous disent, mais ça, il fallait nous le dire quand on avait 20 ans, quand on avait 15 ans. Mais maintenant, on a 45 ans. Ah, bataille, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un rave. Une fois, quelqu'un, il a eu un garçon. Il était content. Il a eu un garçon. Il a été voir le rave. Il a dit, rave, regardez, j'ai eu un enfant. Faites-moi une bracha. Il a fait une bonne bracha. Ah, il a dit, bon, il a voulu faire le chacham. Il a dit, rave, quand est-ce que ça commence la mitzvah d'éduquer les enfants? Le rave, il lui a dit, à peu près 20 ans avant la naissance. De l'enfant. Pas des parents, c'est, on a pitié de vous, quand même. C'est 20 ans avant la naissance des enfants. Ah, l'autre, il a pas compris. Ah, là, il a dit, ben, c'est simple. Il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants. Alors moi, je vous amène un petit hidouche personnel. Une fois, quelqu'un est venu chez moi. Il m'a dit, à quoi sert le Shalom Bayit? À quoi ça sert? Il m'a dit, tu nous embrouilles la tête. La tendresse, le kavod, l'implication, la sérénité, l'amour. Si je lui prends la tête, c'est tout tranquille. À quoi ça sert Shalom Bayit? Il m'a demandé comme ça, à quoi ça sert Shalom Bayit? Il m'a dit, moi, j'étais tranquille. Il y avait moi, ma télé, ma femme. Il était bien. Il était tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est très simple, mon frère. Le Shalom Bayit, ça sert à te préparer à la crise d'adolescence de tes enfants. C'est-à-dire que quand tu te maries, ta femme, elle tombe enceinte tout de suite. Tu as 17 ans pour préparer la crise d'adolescence de tes enfants. Pile, tu as 17 ans. Tu dis, mais comment on fait pour se préparer? T'as raison, j'ai peur. Comment je vais faire? Toi, tu es adolescent et ta femme, c'est une adolescente. Donc, quand tu construis ton couple et que tu deviens adulte dans ton couple, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares la crise d'adolescence de tes enfants, parce que quand tu as déjà assumé celle de ta femme et tu as assumé la tienne, maintenant tu peux assumer celle de tes enfants. Ça veut dire que la femme, c'est l'occasion pour un homme de devenir un adulte, et l'homme, c'est l'occasion pour la femme de devenir une adulte. Alors, ça sera pour vous. Ah, et si tu vas me dire, et s'il y a des gens qui veulent pas faire le shalom, alors ils sont des gamins, eh ben ils ont un problème. Parce que quand les enfants ils arrivent à 17 ans, ils voient que leurs parents sont des gamins, ils sont embêtés. savez pourquoi? Parce qu'on a un grand principe très important. C'est très très important que les maîtres nageurs savent nager. C'est très important. Imaginez, vous êtes en train de vous noyer comme ça. Ah, il y a un type qui arrive comme un fou. Tu dis, tu te noies aussi? Il dit, non, moi je suis maître nageur. Il dit, mais je ne sais pas nager. Tu es fou, mais tu es un malade. Tu te mets maître nageur, tu es payé tous les mois et tu ne sais pas nager. Le maître nageur ne sait pas nager, Rabotaille. Le maître nageur ne sait pas nager. Comment on va faire? Le maître nageur, il doit savoir nager. Ah, où est-ce qu'on apprend à nager? Comme ça, il m'a dit un autre une fois. Ah, j'entends des choses à la fin des conférences. Il m'a dit, oui, la Torah, c'est tellement, tellement maligne, la Torah. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un Shulchan Aruch pour l'éducation des enfants? Alors, la Torah t'explique tout. Hein. Tu veux savoir comment il faut manger, comment il faut aller avec ta femme, comment il faut aller à la toilette, comment il faut s'habiller. Tout est marqué dans la Torah. L'éducation, c'est pas marqué. Il n'y a pas. C'est bizarre, non? Tu sais pourquoi? Parce que l'éducation, c'est la construction. La construction personnelle, la construction du couple, la construction face à la vie, c'est ça l'éducation des enfants. Et si tu n'as pas compris ça, il faut tout recommencer. C'est exactement ça le principe. C'est qu'un homme, il arrive à comprendre qu'il a en face de lui une femme. Qu'est-ce qu'elle a la femme? La femme, elle a la moitié de son fils. Lui, il a la moitié de son fils. Donc les deux, ils ont la moitié de leur enfant. Donc ils ont la moitié des qualités de leurs enfants et ils ont la moitié des défauts de leurs enfants. Ils sont les deux en présence. D'accord? Maintenant, la Torah, elle dit, bon, les deux, vous voulez faire des moitiés ou vous voulez faire des entiers? Alors, ils disent, on voudrait bien faire des entiers. Imagine l'enfant inné, chas v'shalom, d'un côté, il y a deux pieds qui sortent, après, il y a les yeux qui sortent, après, il y a les oreilles. Tu dis, je voudrais bien que les éléments du corps, ils soient tous ensemble. Tu veux l'homogénéité physique? Hazak ou Baruch, Dieu, il s'en occupe. Tu dis, mais je voudrais bien aussi l'homogénéité psychique. Ah, tu dis ça, mon frère, ça dépend. Ça dépend du shalom. L'homogénéité spirituelle, ça dépend du shalom. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Il y a les éléments de l'enfant qui viennent de la mère. Il y a des éléments de l'enfant qui viennent du père. Comment ils vont être ensemble? C'est parce que le père et la mère, ils sont ensemble. Oh! Eh, comprenez? Si tu n'as pas branché l'écran sur la tour de l'ordinateur, tu peux faire toutes les ségoulottes du monde, il n'y aura rien sur l'écran. Donc, la Torah, elle te demande, es-tu branché avec ta femme? Quand vous avez un problème avec l'ordinateur, la première chose qu'il vous met, il vous met vérifier les connexions. Es-tu connecté avec ta femme? Si tu n'es pas connecté, mon frère, c'est normal que le courant ne passe pas. Donc, quand tu fais le shalom, tu fais passer le courant. Quand tu passes le courant, eh bien, le courant, il passe. C'est pas la peine d'être musulman pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? C'est facile. Oui ou non? Non? Ici, c'est pareil. Donc, quand un homme et une femme, ils font un, et la Torah, elle est très, très attentionnée. Je sais très bien, d'après votre âge, que vous avez tous fait les halachot. Comment est-ce qu'on se fait avec sa femme? Comment on se conduit avec sa femme? Tout le monde a fait le siman reshmem dans le Shulchan Aruch. Vous avez appris comment est-ce qu'un homme, il doit se conduire avec sa femme. Donc, vous avez compris qu'est-ce que c'est de faire un avec la femme. Or, qu'est-ce qui est dangereux? C'est de pas faire un, c'est de penser à quelqu'un d'autre, c'est de pas être un dans la tête, c'est pas, de pas être un dans le cœur. Ça, c'est dangereux. Parce que si on n'est pas un, ouais, quand on va imprimer deux. Alors, la Torah, elle a dit, l'homme, il fait un avec la femme, il fait un avec l'homme. Maintenant, je vous ai dit, c'est marqué dans le Zohar, que quand l'homme, il conçoit l'enfant avec la femme, Akadosh Baruch Hu, il est là. Où il est, Hachem? Où il est? Rabotai, on a dit que l'amour, c'est la coexistence. C'est ma neshama avec ta neshama. Moi, je réalise, mon être, c'est mon Ratson, c'est ma neshama. Toi, c'est ta neshama. Dites-moi, les deux neshamot, quand elles se rencontrent, c'est quoi? On dit en français, c'est la Shekhina. On dit Shekhina Bene'em. Shekhina Bene'em. La Shekhina, elle est entre eux. C'est quoi la Shekhina? C'est ta volonté qui sort de ta neshama avec sa volonté qui sort de la neshama. Donc, le shalom, la Shekhina et l'amour, c'est la même chose. C'est comme si on disait, ton clavier, il est branché avec ton ordinateur par infrarouge. C'est quoi l'infrarouge? C'est les deux volontés qui se rejoignent. Donc d'un côté, il y a l'homme. D'un côté, il y a la femme. Comment ils sont liés? Par infrarouge. Comment on va l'appeler l'infrarouge? La Shekhina. S'il y a l'infrarouge, il y a les connexions. S'il y a connexion, il y a échange. Or, encore une fois, il y a des choses qui ne viendront que du mari et il y a des choses qui ne viendront que de la femme. Donc, quand toi, tu dois faire le shalom avec ta femme, ça veut dire que tu dois te débrouiller pour que ce que ta femme peut apporter, il faut qu'elle le donne. Et que ce que tu dois porter toi, tu dois le donner. Alors, comment ça s'écrit Ish? Aleph, Yud, Shin. Comment s'écrit la femme? Aleph, Shin, He. Oui ou non? C'est quoi le 5? Vous savez, vous connaissez le 5? Ouais. C'est quoi le 5 dans la Torah? Il dit le Sforno. Pourquoi le He, c'est la marque du Nekeva? Pourquoi le He, c'est la... Au féminin, vous savez, vous avez fait tous tout le pan ici, oui? Le He, c'est la marque du Nekeva. Quand vous voulez mettre quelque chose au féminin, vous mettez un He à la fin. D'accord? Katan, Ketana, le He. Pourquoi le He, c'est la marque du féminin? Il dit parce que le He, c'est quoi? C'est Olamazé. Tous les éléments de bracha dont un homme a besoin, elles sont chez sa femme. C'est la femme qui amène la bracha à l'homme. Donc la femme, elle contient le He. L'homme, il contient le Yud. C'est quoi le Yud? C'est la Torah. Ça va? Quand un homme fait du kavod à sa femme, elle lui donne le He. Quand la femme fait du kavod à son mari, elle lui donne le Yud. Il y a de la Torah dans la maison, c'est le Yud. Il y a la bracha dans la maison, c'est le He. La Torah, elle a dit, un homme doit faire du kavod à sa femme et une femme doit faire du kavod à son mari. C'est quoi le kavod? C'est le droit d'être que tu donnes à l'autre. Donc quand un homme respecte sa femme, elle lui donne ce qu'elle contient. Qu'est-ce qu'elle contient? La bracha, puisqu'elle va exister pour lui. Elle lui donne ce qu'elle contient, la bracha. L'homme, il va être encouragé à exister pour elle. Qu'est-ce qu'il contient? La Torah. Et si le mari n'a pas de Torah? C'est embêtant. Et si la femme n'a pas de bracha? C'est embêtant. T'as raison. C'est un grave problème. Donc, il faut vite rétablir les équilibres. Que quoi? Que un homme, il est là pour encourager sa femme à exister, et une femme, elle est là pour encourager son mari à exister. Maintenant, ça, c'est juste un exemple. Comment est-ce que l'homme peut encourager la femme à donner ce qu'elle contient, et la femme peut encourager le mari à donner ce qu'il contient. Maintenant, l'homme, il contient quoi aussi? Il contient un homme en lui. La femme, elle contient une mère, une femme en lui. Quand un homme, il travaille pour l'épanouissement de sa femme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Que sa femme devienne une adulte. Maintenant, impossible que sa femme devienne une mère si sa femme n'est pas une femme. Donc, quand un homme travaille pour que sa femme s'épanouisse, il travaille pour que la mère de ses enfants, elle soit équilibrée. Et quand une femme, elle travaille pour l'épanouissement de son mari, or c'est quoi épanouir? C'est exister. Donc, quand une femme respecte son mari, il est encouragé à exister. Or, de l'adolescent léger qu'il était, il devient un homme grâce à sa femme, on a dit. Pourquoi? Parce que la femme, elle a besoin de la sécurité du mari. Donc, elle encourage l'homme à la sécuriser. Donc, quand l'homme sécurise la femme, il devient un homme. Il devient en même temps un père. Cet exercice d'encourager l'autre à exister, vous savez comment on l'appelle? L'éducation des enfants. C'est quoi l'éducation des enfants? C'est encourager l'enfant à exister. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Encourage-le à exister. Rien que ne le décourage pas, c'est déjà pas mal. Oui ou non? Qui c'est qui s'est encouragé à exister? Celui qui s'est entraîné à encourager l'autre à exister. La Torah, elle t'a dit, entraîne-toi avec ta femme, entraîne-toi avec ton mari. Or, puisque l'amour, c'est la coexistence, et que ne peuvent coexister que des gens qui existent, donc toi, si tu veux coexister avec ta femme, tu es obligé d'entraîner à exister. Donc toi, tu vas faire exister ta femme, elle va faire exister son mari, donc les deux, ils peuvent coexister. Donc impossible de te parler d'amour sans parler de respect, puisque le respect, c'est la communion des tentatives de coexistence. C'est facile, non? C'est clair? Vous avez compris pourquoi la Torah parle de respect maintenant? Pourquoi la Torah parle de tendresse? Parce que c'est quoi la tendresse? La tendresse, c'est l'encouragement à l'existence. Regardez. Quand vous faites une bonté à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il est bouleversé. J'adore ce mot. C'est quoi bouleversé? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est remué. C'est comme si vous imaginez une pyramide de boules de billard. C'est très dur à faire. Hein? Ouais. Et vous tapez dans la pyramide et toutes les boules, elles sont versées. Elles sont bouleversées. Vous avez une personne. Ben, quand vous lui faites une bonté, vraiment une bonté gratuite, hein? Si c'est une montée payante, par exemple, vous faites du commerce, je te donne 10 000, tu me donnes 100 pantalons. L'autre, il n'est pas bouleversé. Bon, ben, c'est normal, tu me donnes l'argent, je te donne des pantalons. Mais si toi, je ne te connais pas, je te dois rien, tu me dois rien, et je te donne 10 000, tu es bouleversé. Pourquoi? Ouvrez bien vos oreilles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai existé pour toi. Tu vois, cet argent-là, j'aurais pu le prendre pour moi. Eh bien, moi, au lieu d'exister pour moi, j'ai existé pour toi. Maintenant, il faut savoir une chose, que la chose la la plus importante pour un homme dans la vie, c'est d'exister. C'est ça le plus important. C'est se réaliser ou ce que tu veux. Donc, il va aimer les gens qui l'aident à exister et il va haïr les gens qui l'empêchent d'exister. Vous comprenez ça? Oui ou non? Maintenant, nous, on a expliqué c'est quoi l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la conjonction des deux existences. Moi, j'existe, toi, t'existes. Mais c'est normal que je vais aimer quelqu'un qui m'aide à exister. Pourquoi? Parce que comment il m'a fait exister? Parce qu'il a existé pour moi. Regardez, lui, il existe pour moi. Moi, j'existe pour lui. Donc, on s'aime puisqu'on coexiste. C'est quoi la haine? C'est quelqu'un qui m'empêche d'exister. Donc, comme lui, regardez bien, il me brutalise. Donc, il m'empêche d'exister. Lui n'existe pas non plus. Donc, il n'y a pas de coexistence, il n'y a pas d'amour. Donc, je vais aimer, c'est-à-dire, je vais me relier avec quelqu'un qui m'encourage à exister et je vais haïr quelqu'un qui m'empêche d'exister. Maintenant, j'ai trouvé une clé. J'ai une clé maintenant, j'ai une clé moteur. Je veux faire exister quelqu'un, c'est très simple, il suffit d'exister pour lui. Donc vous avez appris une règle, vous venez de gagner à peu près 4 ans de fac en psychologie. Vous venez d'apprendre une règle extraordinaire, et rappelez-vous de celle-là, vous l'écrivez dans votre salle à manger au-dessus du buffet. On n'a pas trouvé un meilleur encouragement à l'existence que l'existence. Rappelez-vous de ça. Ça a l'air simple, c'est très profond. La seule manière de faire exister quelqu'un, c'est d'exister pour lui. Tu peux mettre des pressions, tu peux faire des insultes, tu peux faire des brutalités, tu peux payer des cours particuliers, tu peux créer une ambiance, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'existes pas pour la personne n'existera pas pour toi. Si tu n'existes pas pour ton entreprise ne marchera pas pour toi. Si tu n'existes pas pour ta communauté, la communauté n'existera pas pour toi. Si tu n'existes pas pour la Torah n'existera pas pour toi. Si tu n'existes pas pour Dieu, Dieu n'existera pas pour toi. Donc, on n'a pas trouvé un meilleur encouragement à l'existence que l'existence. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a deux buts. Dieu, il a un but que l'autre existe et Dieu, il a un but que toi, t'existes. Donc, qu'est-ce que regardez la Chorma Nifla Ad Hashem? Il a fait dépendre l'existence de l'autre de ton existence à toi. Donc, si toi, tu veux exister, tu es obligé d'encourager l'existence de l'autre. Donc, Dieu, il a gagné deux fois parce que grâce à ça, il fait exister l'autre et il fait exister toi. Top niveau. Vous comprenez ça ou non? Donc maintenant, toi, tu veux que ta femme, elle existe. La seule manière, c'est de lui apporter du bien. Quand tu lui apportes, elle voit que tu existes pour elle. Elle aura envie d'exister pour toi. Donc, tu vois bien qu'exister pour l'autre, ça fait exister. Alors, la motricité de l'existence s'appelle la tendresse. Et la réglementation de l'existence s'appelle le kavod. Le kavod, c'est quoi? C'est l'espace de liberté que tu crées pour que l'autre existe. Voilà ce que j'ai le droit de faire, voilà ce que j'ai pas le droit de faire. Ça, c'est le kavod. Tu respectes tes parents, ils existent. Tu les respectes pas, tu les empêches d'exister. Donc tu respectes tes enfants ils existent. Vous me direz, mais il y a double emploi. Puisque de faire de la bonté pour l'autre, on a dit que ça le bouleverse, ça le fait exister. Donc quelle différence entre le kavod qui fait exister et le respect qui fait exister? C'est pareil. Entre le kavod qui fait exister et la bonté qui fait exister les deux. Non, 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 rabotaille. Parce que le kavod, c'est le système de protection. Et la bonté, c'est le système moteur. Je vous donne un exemple. Vous savez que c'est marqué dans le Zohar, Kol Ha'olam Mashalim. Tout le monde entier, ce ne sont que des exemples. Donc le monde physique, il a été créé pour que vous compreniez le monde spirituel. Le monde spirituel, il est dur à comprendre, il est abstrait. Alors je te fais un croquis. Quand je te fais un croquis, tu comprends. Vous avez compris ou non? Tu dis, ah, maintenant j'ai compris ton idée abstraite. Alors imaginez, le monde physique tout entier, c'est le croquis du monde spirituel et du monde psychologique. Oui ou non? Dites-moi, quand vous prenez une viande, ouais, elle est rouge, elle est crue. Quand vous la mettez à chauffer, elle change de couleur et elle cuit. Elle se ramollit. Oui ou non? Donc la chaleur, elle ramollit l'intérieur des choses. La chaleur, elle ramollit l'intérieur des choses. Donc la tendresse, elle bouleverse l'intérieur de la personne. Donc vous prenez une marmite, vous mettez du feu en dessous, l'intérieur de la marmite, il va changer d'état. Vous mettez un glaçon, vous mettez du feu, le glaçon il devient de l'eau, et l'eau elle devient de la vapeur. Maintenant une personne elle a du mal à exister, tu veux l'aider à exister, donne-lui de l'amour. Quand tu lui donnes de l'amour à la personne, elle est bouleversée à l'intérieur, et il faut que ça sorte, alors elle va dire merci. Quand elle dit merci, elle existe, c'est un effort. Je vous dis un grand hidouche que les gens ne connaissent pas. C'est aussi dur de donner que de dire merci. Et c'est aussi dur de dire merci que de donner. Tu sais pourquoi ? Parce que pour donner, tu sacrifies du matériel. Mais pour dire merci, tu sacrifies de l'orgueil. À Botaï, c'est aussi dur. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ne pas dire merci. Pourquoi ? Parce qu'il faut sacrifier. Or, qu'est-ce qui t'empêche d'exister ? Il y a deux choses qui t'empêchent d'exister. Le psychique et le physique. Le psychique, c'est quoi ? C'est l'amour propre. Et le physique, c'est quoi ? C'est le matériel. Alors, il y a un homme et une femme en face. La Torah, elle dit, donne à ta femme. Tu sacrifies du matériel. Ben, Nara, tu sacrifies tous les mois. Hein. T'as encore mis à découvert ce mois-ci, c'est pas grave. Donc, tu sacrifies du matériel. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle dit merci. Dis-moi, pour dire merci, ça lui a coûté un effort. Pour toi, pour donner, ça t'a coûté un effort. Donc, regardez bien, toi, tu t'es dépassé pour donner, t'as existé. Elle, elle s'est dépassée pour dire merci, elle a existé. Maintenant, comme tu lui as donné, elle a envie de te donner, elle va se dépasser pour donner, toi, tu vas te dépasser pour dire merci. Donc, les deux écueils qui sont le corps et le psychique, vous les avez dépassés pour coexister. Donc, la bonté, elle devient moteur de coexistence. La chaleur en dessous de la marmite, elle fait fondre le glaçon. Ça va ? Et elle cuit la viande. Si vous allez me dire, alors pourquoi il faut mettre une marmite ? Mais pas de marmite, ça ira plus vite. Tu mets l'amour sans la marmite. Qu'est-ce qui se passe ? Tu brûles la viande. On appelle ça la passion. Qu'est-ce qui va délimiter les effets du feu ? La marmite. C'est quoi le machal de la marmite ? Le nimshal, c'est quoi ? Le kavod. Le kavod, c'est les limites que tu ne dois pas dépasser dans ta façon de faire du bien à l'autre. Parce que quand quelqu'un il est emporté à faire le bien, il peut même aller trop loin, il peut même rentrer dans la vie de la personne, il peut même détruire la personne. Regardez bien, par amour, mon chéri, par amour je t'étouffe. Par amour je t'englue, par amour je te tue. Mais c'est par amour. Il n'y a pas que des gens méchants qui vous font du mal, vous comprenez ou non ? Il y a aussi des gens gentils. Par amour. Qu'est-ce qu'a dit la Torah ? Kavod. C'est quoi le kavod ? Le kavod, c'est l'espace de liberté que tu crées pour que l'autre puisse exister. Donc il faut l'amour et le kavod. Le chesed et le kavod. Le chesed, c'est la dynamique qui encourage à exister. Le kavod, c'est l'espace de liberté que tu crées pour que l'autre puisse exister. Donc ça veut dire quoi ? Je t'encourage à être, mais je te laisse être. Mais si tu encourages à être en empêchant l'autre d'être, tu ne l'as pas aidé à exister, tu l'as empêché d'exister. Donc tu peux avoir un amour étouffant. Possessif, anti-existence. Pourquoi tu vas avoir l'expérience, mon fils ? Tu as ta mère, tu as ton père, reste dans ton coin, rien que déprime, puisqu'on fait tout à ta place. Alors, il fait. Alors, il va chez le psy. Alors, le psy dit : mais cet enfant n'existe pas ! Oui, mais il a 38 ans. Parce que Baruch HaShem, il a un père. Et une mère. Et alors ? Il a un père et une mère. Alors il est mort. Sans père ni mère, on ne peut pas évoluer. Et avec un père et une mère, on peut étouffer. Ça dépend si chacun va jouer son rôle. D'accord ? Tu vas me dire, mais parents, c'est un métier qui ne s'apprend pas. Pourquoi ? Tu n'étais pas marié avant d'être parent. Alors dis-moi quelque part, tu n'es pas un peu le père de ta femme ? Et tu n'es pas un peu la mère de ta femme ? Et toi, tu n'es pas un peu le père de ton mari et tu n'es pas un peu la mère de ton mari ? Le père de la femme, c'est quoi ? C'est le kavod de la femme. Et c'est quoi la mère de la femme ? C'est la tendresse pour la femme. C'est quoi le père du mari ? C'est le kavod du mari. Et c'est quoi la mère du mari ? C'est la bonté envers le mari. Donc quand tu fais du kavod à ton mari, tu es en train d'apprendre à respecter ton mari. Et quand tu fais de la bonté à ton mari, tu es en train d'apprendre à apporter de la tendresse à ton mari, donc à l'encourager à exister. Ce que tu es en train de faire maintenant, qu'est-ce qui t'empêchera de le faire envers tes enfants, puisque c'est la même chose ? Donc les parents, ça devient l'école. Le couple, ça devient l'école des parents. Donc la Torah, elle n'a pas besoin de donner un Shulchan Aruch, puisque toi, tu es censé être spécialiste en Shalom Bayit. Ah, tu dis, ah non, c'est pas vrai, parce que ça aussi, ça ne s'apprend pas. Alors, je vais t'expliquer, je vais te résumer, parce que je vois que tu fais la tête dure, je vais te résumer le problème. Les enfants, ils sont uniques, ils sont comme toi. Donc on ne peut pas faire un Shulchan Aruch pour tout le monde. Donc il faut que tu apprennes à connaître tes enfants. Je dis, mais je ne me connais pas. Alors apprends à connaître ta femme, tu as déjà la moitié. L'autre moitié, c'est toi, donc tu te connais. Tu dis, mais je me connais pas. Donc, tu as compris maintenant l'histoire. On reprend le problème à l'envers. Tu apprends à te connaître, numéro 1. Deuxièmement, tu apprends à connaître ta femme. Numéro 2, Numéro 3, tu apprends à connaître tes enfants. Maintenant, quelqu'un qui connaît sa femme, il n'est pas loin de connaître ses enfants, puisqu'il se connaît lui-même. Ah, il ne connaît personne, eh bien, il faut qu'il apprenne tout le monde. Et c'est normal, puisque l'amour, c'est la coexistence. Et que l'existence, ça existe, la coexistence, que ça existe, qu'il y a d'autres personnes qui existent. Donc quand toi, tu sais comment tu existes, et que tu sais comment ta femme existe, et que vous savez comment vous coexistez, tu peux imaginer comment tes enfants, ils vont exister. Est-ce que vous me suivez ? Donc tout le travail de dialogue et de compréhension et de sensibilité et de solidarité que tu as fait avec ta femme, ça fait que tu as absorbé complètement les données de ta femme. Elle a absorbé complètement les données du mari. Donc maintenant, quand tu vois une facette de ta femme qui apparaît chez ton enfant ou quand tu vois une facette de toi-même qui apparaît chez ton enfant, tu sais la gérer puisque tu l'as déjà gérée. Tu dis, ah oui, mais si on a raté un coche, attends, t'as donné la troisième chance. C'est ça le... C'est quoi ? C'est que les gens qui vont se préoccuper de l'éducation de leurs enfants, ils vont, Baruch HaShem, régler les problèmes de leurs enfants, mais ils vont être obligés de régler les problèmes de leur couple, puisque le couple, il co-gère les enfants. Ils vont être obligés de régler leurs problèmes personnels, puisqu'ils projettent leur personnalité dans l'enfant. Donc quand le psychologue, il va te dire, mettez-vous à la place de votre enfant, essayez de le comprendre, trouvez les mots qui vont coller, mettez-vous à sa place, essayez de revivre les événements, ça veut dire quoi ? Mais mon frère, tu es en train de faire ta thérapie. Donc la thérapie de l'enfant, c'est la thérapie des parents. Donc les parents qui s'occupent de leurs enfants, ils évoluent avec leurs enfants. Donc maintenant, l'enfant qui devait être le fruit de ton existence, il peut devenir le moteur de ta propre existence. Parce que maintenant, toi, tu vas être obligé de te révéler, puisque ton fils, il veut un adulte en face de lui. Alors tu vas être obligé, eh ben, béchif, tu vas être obligé de devenir un adulte. Tout ce que t'as magouillé, t'as traloédé, t'as fait l'enfant à la maison, t'as fait l'enfant dans la rue, t'as fait l'enfant au boulot, t'as réussi à t'arranger. Mais ton enfant, tu peux pas le baratiner, il veut un homme, il veut un père. C'est pareil. Elle veut une mère. Il dit, maman, je veux une mère. Vous comprenez ou non ? C'est ce qu'ils disent les psychologues aujourd'hui. Ils disent, le père c'est la police, la mère c'est la drogue. Parce que comme les parents sont laxistes, c'est quoi ? Ils jouent pas leur rôle de père. Donc l'enfant... Il cherche un père. Mais comme son père ne joue pas le rôle du père, il vole une mobylette. Pourquoi faire ? Pour que son père l'attrape. Mais comme son père, ça ne l'intéresse pas, il faut que le flic il vienne lui dire, tu sais, c'est pas bien de voler des mobylettes. Donc le flic joue le rôle du père. L'enfant, il veut la tendresse de la mère. Mais la mère, elle n'a pas le temps, elle est occupée, elle est prise, elle a une carrière à faire, il faut qu'elle suive Internet, il faut qu'elle soit au courant de ce qui se passe. Elle ne joue pas son rôle de mère. Alors automatiquement, l'enfant, il va chercher la drogue. Il va se faire chouchouter. Donc ils disent aujourd'hui, la drogue c'est la mère, le flic c'est le père. Ça c'est les psychologues. Maintenant, Baruch HaShem, dans la communauté, on n'a pas ces problèmes-là. Hein ? Baruch HaShem, hein ? Oh là là ! Oh là là ! On n'a presque pas ces problèmes-là. Baruch HaShem, oui ? Abotai, c'est simple, la Torah t'a donné les clés. Les clés. La vie, c'est la clé de l'homme. La femme, c'est la clé du mari. Et les enfants, c'est la clé du père. La vie, c'est la clé de la femme. C'est la clé de la jeune fille, je veux dire. Le mari, c'est la clé de la femme. Comment elle sort la femme de sa porte, de sa maison ? Grâce au mari. Et les enfants, c'est la clé de la mère. Donc je suis d'accord avec toi qu'une femme qui fasse se droguer au feu de l'amour, elle ne va pas être capable de donner à ses enfants l'amour. Puisque elle reçoit de l'amour artificiel. Ah, pourquoi elle va chercher de l'amour artificiel ? Parce que son mari ne lui donne pas de l'amour naturel. Donc, puisqu'elle ne reçoit pas d'amour naturel, elle ne transmet pas de l'amour naturel. Donc, quand les enfants lui disent, mais maman, on voudrait une mère. Les enfants, ils disent, la mère, elle dit, eh ben, allumez les feux de l'amour. Faites comme moi. Droguez-vous. Alors, les enfants, ils disent, mais c'est bidon, les feux. Alors, ils vont se... En bataille, c'est facile. Quand quelqu'un n'a pas de tendresse naturelle, il cherche la tendresse artificielle. C'est facile. C'est simple. Tu veux la preuve ? Tu veux la preuve ? Tu veux la preuve ? C'est que les gens, ils passent en moyenne 3 heures par jour devant la télé. Et dis-moi, la télé, c'est pas de la tendresse artificielle, c'est pas de l'aventure artificielle, c'est pas du frisson artificiel, c'est tout artificiel. Tout. Alors les gens disent, Ravé Shalom 3 heures. J'ai oublié, c'est vrai, il y a 1h30 à Internet. Je l'ai oublié, celle-là. Et encore 1h30 avec les jeux. Maintenant, ils font des nouveaux jeux avec la poignée qui vibre. Ouais, PlayStation. Je pense que Nego, il n'est pas branché. Ouais. PlayStation 2. Toi et ta Neshama, les deux, vous êtes morts. Ouais. PlayStation. C'est la folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose simple. La société, elle fabrique de l'artificiel parce qu'elle n'a rien de naturel à donner. Mais nous, Chas v'Shalom, même si on n'est pas des grands religieux, on ne va pas tomber dans le piège le plus gros de la terre. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas tomber dans le piège de l'artificiel. Faut pas être débile. Déjà, ils ont joué avec la viande. Regardez la tranche des vaches. Ils jouent avec les maïs. Regarde la tranche du maïs. Et maintenant, tu veux qu'ils te fassent des parents artificiels. Des personnes artificielles. Oh! C'est dangereux, non? Donc, tu vas pas tomber dans le piège. Là, Rabotai, il faut être bio. Très bio. C'est quoi bio? Je voudrais de l'amour naturel. J'aime ma femme m'aime, c'est naturel. Ah, j'ai pas le temps, trouve du temps. Je veux que mes enfants, ils reçoivent de l'amour naturel. Tu vas prendre tes enfants dans tes bras, tu vas passer du temps avec eux, tu vas leur montrer de l'amour, tu vas leur dire l'amour. Tu dis, mais j'ai pas le temps, je suis pris, j'ai pas la tête, et puis mon père me l'a pas donné. Tu te débrouilles, mon frère. C'est ta chance à toi. C'est ta chance d'homme et c'est ta chance de père. C'est ta chance de femme et c'est ta chance de mère. Débrouille-toi. Combien de fois j'entends des gens, ils me disent, oui, mais vous nous embêtez avec vos cours parce que vous dites que la mère, elle doit donner la tendresse, mais moi, j'ai pas reçu la tendresse, je sais pas faire ça. Je sais pas. J'ai dit, mais madame, c'est une chance pour vous que vous avez eu un enfant qui a besoin de tendresse. Et je vais vous faire remarquer une chose extraordinaire. À chaque fois que quelqu'un, il n'arrive pas à donner la tendresse, on lui donne des enfants hypersensibles. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enfant, il ait sa dose, plus la dose que tu as besoin de lui donner. C'est-à-dire que l'enfant, il contient la solution des parents. Et plus t'es Ramma, et plus il va être Ramma l'enfant. Vous n'avez pas remarqué que les gens nerveux, ils attirent les personnes lourdes? Vous n'avez pas remarqué ça? Plus t'es nerveux, plus t'es entouré de gens lourds. Mais c'est de la folie. Vous vous rappelez l'exemple de la secrétaire ou non? Vous avez oublié l'exemple de la secrétaire? J'ai dit, c'est la dernière, non? C'est la Rada, je suis obligé de vous donner l'exemple de la secrétaire. Il y a un patron hyper nerveux. Il a créé une boîte qui s'appelle Arfif. Comme lui. Comme ça. Oui, nous avons la solution avant que vous posiez le problème. Ça, c'est le dicton de la société. Il est Arfif, comme ça. Il gère 184 boîtes en même temps. Il gère, il crée les trucs, il crée le logiciel en même temps qu'il définit la nouvelle machine. Il prend une nouvelle secrétaire. Mais qui est pratiquement aussi belle que bête. Mais elle est très belle. Imaginez la bêtise qu'elle doit. Ça, c'est une grande question que j'ai toujours eue. J'espère qu'un jour, quelqu'un me répondra. Pourquoi est-ce que les patrons ont besoin de belles secrétaires alors que les clients, ils n'ont la secrétaire qu'au téléphone? Ils ne voient pas la secrétaire. Ils pourraient prendre un ours avec la voix de Marilyn Monroe. Surtout que maintenant, avec une table de mixage, vous pouvez faire la voix de Marilyn Monroe. Prends un ours comme ça, une table Bosa russe. Tu lui mets la voix de Marilyn. Allô, secrétariat Rfif. Ouais. Pourquoi ils prennent toujours une beauté? J'ai jamais compris. Bon, un jour, Hachem, il m'aidera à comprendre, si Dieu veut.
Pour le principal, elle est super.
Ah, je ne rentre pas là-dedans. Ça veut dire quoi? Maintenant, il a pris une secrétaire. Mais une secrétaire, je vous dis, une paha atomique. Il vient le premier jour. Mademoiselle Catherine, si ça ne vous dérange pas, envoyez ce fax. Elle est tellement paha, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend l'appareil du fax, elle le met dans une boîte, elle l'envoie. Alors lui, il vient, il voit le fax sur la table. Il dit, mademoiselle Catherine, ce fax, c'est important, j'ai besoin de la contre-signature. Où est-ce qu'il est? Où il est le fax? Elle dit, mais je l'ai envoyé. Ouh là 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 là, il cherche l'appareil, il ne le voit pas. Alors il dit, avant de lui éclater la tête, il dit, pourriez-vous me dire où vous avez envoyé ce fax? Parce que c'est intéressant, parce que je ne lui ai pas donné l'adresse. Il dit, je vous dis franchement, quand vous n'avez pas précisé, je me suis permis de prendre l'initiative, je l'ai envoyé au Secours Populaire Catholique. Tellement il n'en peut plus, il veut la tuer. Il lui dit, mademoiselle Catherine, vous êtes renvoyée. C'est ce qu'elle lui dit. Je ne sais pas si je vais trouver une boîte assez grande. Elle veut s'envoyer, vous avez compris ou là? À Botaille. Plus les gens ils sont nerveux, plus ils attirent des pas. Pourquoi? Parce que toi, ça fait des années que tu redoubles. Tu as une classe qui s'appelle la classe nerveuse. Tu redoubles. Alors Hachem, il t'envoie des exercices. Tous les soirs, tu as 2h30 d'embouteillage. Béchif, pour toi. Il y a un accident sur le périph', il est pour toi, pour ta main, toi. Il y a un feu rouge qui marche pendant Paris, il est sur ta tronche. pour que tu règles ton problème de nervosité. Il y a des gens qui disent non, 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 je suis pas nerveux. Ah ben jusqu'à la fin de leur vie. Hein. C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont irresponsables. On leur envoie un enfant irresponsable. Comme ça, ils sont obligés de devenir responsables. Celui-là, il n'arrive pas à exprimer la tendresse. On lui envoie un enfant hypersensible. Celui-là, il n'arrive pas à être affirmatif. On lui envoie des enfants qui sont comme ça, qui savent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Alors, il faut qu'ils jouent leur rôle. Pourquoi ? Rabotaille, le cahier d'exercice, c'est la vie. Le distributeur d'exercice, c'est l'enfant, le parent, le voisin. Chacun, il fait son travail. Donc, ton enfant, il est nécessaire pour toi. Maintenant, toi, au lieu de le rejeter, parce que tu as l'impression qu'il est le contraire de toi, il est exactement la personne que tu dois être, pas la personne que tu es. Maintenant, si tu étais la personne que tu dois être, il n'y aurait pas de problème. C'est parce que tu n'es pas la personne que tu dois être. Dieu, il veut t'obliger à être la personne que tu dois être. Alors, il va t'obliger à être. Vous êtes jamais demandé, pourquoi il y a une mitzvah d'enseigner la Torah à son fils? Velimatem, ouais, otam, et benechem. Vous les enseignerez à vos enfants. Pourquoi? Maintenant, moi, je vous dis, c'est 1 million de fois plus facile d'enseigner à n'importe qui que d'enseigner à son fils. Comme ça, avec. Comme ça, comme ça. C'est les nerfs. D'accord? Et pourtant, si tu n'as pas compris ce que tu as étudié, tu ne peux pas le dire à ton fils. Donc quand tu enseignes à ton fils, tu es obligé de comprendre ce que tu étudies. C'est vicieux. Il y a toujours un malin pour dire « Et celui qui n'a pas étudié, comment il va faire ?» Réfois chez les mains, réfois ta néfèche, réfois ta gouffe. Il va être obligé d'étudier en bataille. Il va être obligé d'étudier. Moi, quand j'ai un khatan qui se marie, il me dit bonjour, je lui dis mazal tov, je lui fais dans 6 ans la Mishnah. Il me dit quoi? Dans 5 ans le chumash. Quoi? Je dis attaque. Il dit non, mais je suis pas religieux. Je t'ai expliqué. Dans 5 ans le chumash. Tu vas mettre ton fils dans une école juive, non? Dans 5 ans le chumash. Qui c'est qui va réviser avec son fils? Et si tu vas me dire non, mais moi j'ai de l'argent, moi je vais payer un mouré. Comment l'enfant il va savoir que l'étude c'est pas important? Parce que quand il va dire « Papa, on révise », le fils, il va dire « Va avec ton moré ». Alors, tu t'étonnes pas après que la Torah, il te la jette dans la figure. Parce que tu lui as montré toi-même que c'était pas important. Tu n'allais pas rater un match de finale pour le chumash de ton fils. Alors, lui, il a dit « Le foot, c'est plus important que la finale ». Donc, quand tu lui dis « Pourquoi tu t'occupes pas de la Torah ?», il dit « Qu'est-ce que j'en ai à ?» Football. C'est extraordinaire. Vous comprenez ça? Exactement pareil. Donc à partir du moment où moi je comprends que maintenant l'enfant, depuis sa conception, c'est une occasion pour moi. C'est que la Torah elle te dit apprends les règles de la conception. Parce que la conception de l'enfant, c'est les bases à partir desquelles on va créer l'enfant. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans l'Ida, que dès que les parents ils conçoivent l'enfant, il y a un ange qui prend la goutte de semence, qui monte au ciel et qui dit « Tipazo matea alea ». Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on détermine toutes les caractéristiques physiques de l'enfant au moment de la conception? C'est simple. Parce que les éléments physiques qui vont participer à la conception de l'enfant, c'est l'homogénéité des éléments qui viennent du père et des éléments qui viennent de la mère. Quand est-ce qu'on les met ça? Au moment de la conception. D'accord? Donc, un jour où il fait un flashage, pour ceux qui sont imprimeurs, ils savent ce que ça veut dire. Ils vont scanneriser les éléments. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du mari? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la femme? Et avec ce scanner, on va déterminer les éléments physiques, donc innés, de l'enfant pour construire. Oui? Et si quelqu'un va dire, mais enfin, c'est abominable! Alors je vais vous faire juste une petite confidence pour enfoncer le clou. C'est marqué que la sagesse de l'enfant, elle va dépendre du bien-être de la femme au moment de la conception. C'est que quand la Torah a dit qu'il faut que sa femme elle soit heureuse et qu'il faut bien s'y prendre et qu'il faut mettre beaucoup de tendresse et qu'il faut mettre beaucoup d'attention, c'est pourquoi? Tu dis pourquoi? Ah, parce que la femme... Non, parce que la Torah, elle sait que la sagesse de l'enfant, elle dépend de l'amour de la femme. Donc plus la femme est amoureuse, plus l'enfant il est intelligent. Alors si tu es pressé, toi tu vas faire ça en 5 minutes. 10 minutes de plaisir. Pendant 30 ans, tu as un pach à table. Tu le regardes comme ça et tu fais... Oui, bah. Tu m'as demandé quelque chose, papa? Je ne sais pas. C'est moi qui a fait ça? Oui, monsieur. Je ne sais pas. Rabota, il n'y a pas... Tout remonte, vous comprenez ou non? Ah, si quelqu'un va venir, alors on est condamné, là? Baruch Hashem, les trois quarts de la salle, vous avez déjà vos enfants, non? Vous êtes bien, on les condamnés. Condamné, Rabotai, Baruch Hashem, ça s'écrit avec un M, pas avec un N. D'accord? Donc c'est quoi? On n'est jamais condamné. C'est quoi? Ça, c'est les données que tu as données à l'enfant au moment de la conception. Maintenant, sachez une chose. L'enfant, avec les données que tu lui as données, Akshbukhu, il a donné une neshama qui correspond à ces données. Donc l'enfant lui-même, il n'est pas en déséquilibre. Parce qu'on ne va pas lui exiger plus que ce qu'il est capable de faire. C'est que quelqu'un qui on donne 30 listes d'essence, on ne l'envoie pas pour faire Paris-Dakar. On lui dit, va faire des courses à Paris. Donc l'enfant, en fonction des données physiques, on lui a donné des données spirituelles. Donc l'enfant lui-même, il est en équité entre ses données psychiques, ses données psychologiques, ses données intellectuelles et ses données spirituelles. Pas de problème. D'accord? Nous-mêmes, on est aptes à l'aider, à optimiser ses capacités qu'on lui a données au moment de la conception. C'est-à-dire que l'enfant, ce qu'on a besoin d'un enfant, c'est qu'il soit un tzaddique. D'accord? Maintenant qu'il soit un tzaddique avec un QI de 180 ou qu'il soit un tzaddique avec un QI de 72, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'il soit un tzaddique. Qu'il soit un tzaddique ingénieur ou qu'il soit un tzaddique manutentionnaire, la seule chose qu'on t'a demandé, c'est de faire un tzaddique. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un tzaddique. Tu vas me dire, mais peut-être que si je lui avais mis plus d'amour, donc il aurait plus intelligent, donc il aurait été un plus grand tzaddik. Non, c'est pas ton problème. Parce qu'on a demandé à personne d'être plus que ce qu'il est capable d'être. Donc toi maintenant, cet enfant, il est là. Avec les conditions, avec l'amour que tu avais à l'époque de la conception, avec la maturité que tu avais à l'époque de la conception, cet enfant, il est venu au monde. Non, sache que si cet enfant, on va dire, en unité de tzaddik, il a un potentiel de 12, oui, si tu l'as amené à 11, t'es mieux que quelqu'un qui a un enfant de potentiel tzaddik de 120 et qui l'a amené à 80. Vous comprenez ou non? Ça veut dire quoi? Première règle, on ne va jamais juger l'enfant par rapport à un autre enfant. On va juger l'enfant par rapport à lui-même. On ne va même pas le juger par rapport à sa classe. On ne va même pas le juger par rapport à ses frères et sœurs. C'est un hasard universel que ces deux enfants soient nés dans la même famille. Parce que chacun, c'est une neshama à part. Donc, on n'a pas besoin de lui faire porter la culpabilité de la force de ses frères ou de la petitesse de ses frères. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas non plus ton problème. Toi, tu dois donner le meilleur pour l'enfant. C'est quoi le meilleur? C'est le meilleur de toi-même. Si tu lui donnes le meilleur de toi-même, tu vas exister pour lui au mieux. Donc, lui, comme il n'y a pas un meilleur encouragement à l'existence que l'existence. Donc, puisque tu as existé au mieux pour l'enfant, donc l'enfant, il va exister au mieux pour toi. Donc, si tu es sincère avec lui, il va être sincère avec toi. Si tu es entier avec lui, il va être entier avec toi. Si tu es bon avec lui, il va être bon avec toi. Si tu es intelligent avec lui, il va être intelligent avec toi. Si tu mens à lui, il va te mentir à toi. C'est un miroir. Pourquoi c'est un miroir? Pour lui et pour toi. Pour lui, pour qu'il puisse apprendre de toi, parce que Baruch Hashem, il a un père et une mère extraordinaires. Et pour toi, c'est un miroir. Comme ça, tu as intérêt à te presser à être extraordinaire. Parce que lui, il va apprendre de toi. En bataille, les gens, ils s'époustouffent de la qualité d'une caméra numérique, tellement elle peut absorber avec une qualité extraordinaire. Mais Rabotai, on n'a pas trouvé une meilleure caméra que les enfants. C'est du MP4. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du 100%. 100%. Je vais vous dire pire encore. Un enfant, il n'absorbe pas ce que tu lui dis, il absorbe ce que tu es. C'est-à-dire que l'enfant, il n'écoute pas tes paroles, il sent si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Alors tu lui dis, je t'adore, il sent que... Il n'a pas confiance en toi. Essayez quand vous êtes énervé de prendre un bébé dans les bras. Essayez de calmer un bébé qui pleure quand vous êtes énervé. Aucune chance. Pourtant, tu lui dis, mon chéri, mais si à l'intérieur vous avez les nerfs, l'enfant il sent les vibrations, ça ne marchera jamais. Le contraire, même si de l'extérieur tu es énervé, mais à l'intérieur de toi tu es extrêmement calme, tu prends l'enfant, il se calme tout de suite. Tac! L'enfant c'est une éponge. Il absorbe. Tu dis, mais il a dû en absorber des choses. Ah oui, qu'il en a absorbé. Rabotaille avec les éponges. On peut ramasser du sucre, on peut ramasser des saletés, on peut ramasser n'importe quoi. Alors fais la table, si tu veux qu'il absorbe, fais la table. C'est toi qui fais la table, tu veux qu'il absorbe, fais la table. Rien ne t'empêche. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'enfant maintenant, c'est une occasion extraordinaire pour les parents. Une fois, je lui dis un hidouche personnel, ça m'arrive de temps en temps. C'est marqué dans la Gemara, Katan en Bomamash. Katan en Bodat. Il faudra qu'on explique aussi cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire Katan en Bodat? J'ai déjà entendu cette phrase. Oui, un enfant, il n'a pas d'esprit, il n'a pas de sagesse, un enfant. C'est un enfant, Katan. Oui, Par exemple, un katan, il ne peut pas écrire un guet. Il faut qu'il y ait au moins. Enfin, c'est une grande marque dans la Gemara. Si Gadol remet à l'ave, s'il y a un grand qui est sur lui, alors le katan, il peut écrire le guet. Avec le date, avec l'esprit du grand et les mains du petit, peut-être on pourrait écrire un guet. C'est une marque dans la Gemara. Pourquoi? Parce que katan a une bodate. Un katan, il ne peut pas faire un kinyan, il ne peut pas faire un rite d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date. Oui? Alors moi, j'ai demandé. Moi, à katan, j'ai demandé. Pourquoi katan a une bodate? Pourquoi? Les gens ils disent, mais enfin, c'est normal. Un enfant, il n'a pas de date. Un adulte, il a un date. C'est quoi le date? Le date, c'est la capacité de projection. Le date, c'est la capacité de synthétiser. Le date, c'est la capacité de voir les choses de l'intérieur, de voir les choses transparentes, de voir les idées. Un enfant ne peut pas concevoir des idées. Il n'arrive pas. Un enfant, il sent et il voit, mais il ne comprend pas. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de faire un grand discours philosophique à un enfant. Un mot d'hâte, il n'a pas d'hâte. Oui? Oui ou non? D'un côté, c'est un avantage, d'un côté, c'est un inconvénient. D'un côté, c'est un avantage, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'embrouiller avec votre discours, puisque lui, il sent. C'est un avantage. D'un côté, c'est un inconvénient, parce que quand tu veux l'expliquer, il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas de date. C'est bon, on s'énerve sur un enfant de 8 ans. Il dit, mais tu ne comprends rien. Mais il ne peut pas comprendre, puisqu'il a 8 ans. Mais toi, tu as 30 ans. Pourquoi tu n'as pas compris? Oui ou non? Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'un enfant il n'a pas de hâte. Parce que puisqu'un enfant ne comprend pas, la seule manière pour lui d'absorber quelque chose, oui, c'est de le voir chez toi. Donc l'enfant qui ne comprend pas, il t'oblige à être ce que tu exprimes. Parce que si tu ne l'es pas, il ne le voit pas. Tu dis à l'enfant, c'est pas bien de mentir. Mais si tu mens, lui, il ne comprend pas. Lui, il comprend, c'est bien de mentir. Tu dis, mais je t'ai dit que c'est pas bien de mentir. Mais il voit que tu mens. Alors lui, il dit, mais c'est bien de mentir. Alors tu lui dis, mais tu comprends rien. Il dit, papa, je comprends rien. Je vois que c'est bien de mentir puisque tu mens. Donc l'enfant, il t'oblige à ne pas mentir. Puisqu'il ne comprend rien. Tu comprends ou non? Un adulte, tu peux lui expliquer ce qu'on appelle un compromis intellectuel. Tu lui dis, écoute, je ne suis pas ce que je dis, mais je te dis une chose que je ne suis pas. Mais un enfant, tu ne peux pas lui dire une chose que tu n'es pas. Parce que ce que tu dis, il ne comprend pas. Mais il perçoit ce que tu es. Alors si t'es faux, il perçoit que t'es faux. Ça sert à rien de lui dire que t'es vrai, puisqu'il pense que t'es faux. C'est pareil. Tu veux apprendre à un enfant la sérénité. Mais tu veux pas qu'il soit violent. Mais si t'es violent, l'enfant, il apprend la violence. L'enfant, il prend le ballon de sa sœur. Tu lui dis, rends le ballon à ta sœur. Il dit non. Tu dis, rends le ballon à ta sœur. J'ai acheté un ballon à ta sœur, je t'ai acheté un ballon à toi. Ton ballon à toi, tu l'as jeté dans la rue. Tu l'as perdu. Maintenant, c'est le ballon de ta sœur, tu rends le ballon à ta sœur. Il dit non. Tu rends le ballon de ta sœur. Il dit non. Tu rends le ballon de ta sœur. Il dit non. Adjugé, treha. Trois fois. Tu lui mets la treha. D'accord? Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il met une treha à sa sœur et il lui prend son stylo. Tu dis, mais je comprends pas. Mais il est bête ce gosse ou quoi? Tu dis, hier, j'ai passé une heure à lui apprendre l'importance de la propriété privée. Au lieu de t'occuper de ce que tu lui as dit, tu devrais t'occuper de ce qu'il a vu. Toi, tu lui as dit l'importance de la propriété privée. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il a vu que quand on n'obtient pas quelque chose par la parole, on l'obtient par les coups. Puisque quand tu l'as pas compris, quand il t'a pas compris, tu l'as frappé. Donc lui, il sait maintenant que ce qu'on n'obtient pas par la parole, on l'obtient par les coups. Donc le lendemain, il a même pas besoin de parler avec sa sœur, il lui met directement la telha. Il a anticipé sur toi. Pourquoi il va discuter? De toute façon, l'autre, il n'est pas d'accord. Mais lui, la telha, ça va plus vite. Donc tu lui as appris à frapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la webcam, il faut pas la mettre de ce côté, il faut la mettre de ce côté. Vous comprenez? Au lieu de regarder ce que toi tu vois, regarde ce que l'enfant y voit. Qu'est-ce qu'il voit de toi? Qu'est-ce qu'il voit de toi? Combien de fois j'ai dit à des parents, vos enfants, ils vous voient en moyenne 3h30 par jour. Donc si les 3h30, tu les passes affalés devant la télé, qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Un type affalé devant la télé. Comment tu veux que ton enfant il soit pas un glandeur? Parce que pour lui, son père, c'est un glandeur. Tu dis, mais 8h par jour, j'étais au boulot. D'où il t'a vu? Il t'a pas vu. Il t'a vu affalé devant la télé. Tu dis, mais je suis fatigué. Attends, dans une heure, ils vont dormir. Montre-leur une image. Toi aussi, la mère, montre-leur une image. Combien de fois des mamans, elles me disent, oh, moi, c'est trop dur les devoirs. Moi, je m'énerve avec eux. J'écris, tout ça. J'en peux plus. Moi, je peux pas. Je dis, mais madame, vous travaillez? Elle me dit, non. Je dis, ben, vous savez ce que vous allez faire? De 2h à 4h tous les jours, vous dormez. Elle dit, mais j'ai envie de vivre. Je t'explique. Tu dors de 2 à 4. Tu te réveilles. T'es plein de force, plein d'énergie, plein de patience. Ils arrivent. Ils vont t'exploser les nerfs. Mais de toute façon, t'as une réserve. Donc après, à 8h30, tu peux faire une demi-heure de squat pour te vider les nerfs. Mais si c'est eux le terrain de squat, quand ils arrivent à 4h30, tu vas leur éclater la tête. Comment tu comprends pas? Avec qui tu fous à l'école là, quand tu sers? Et pourquoi on paye? Oh, tu dis, attends, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Rabotaille, tu as 2h30, 3h maximum par jour avec eux. Tu as 3h! Je parle pas des fous qui gardent les gosses jusqu'à 11h30 du soir. Ceux-là, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de shalom bayit, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de vie. Un enfant, il rentre à 4h30, à 8h, il est au lit. Pourquoi les enfants, ils ont besoin de dormir 12h? Vous savez pourquoi? Parce que les parents, ils ont besoin de 3h le soir pour eux! C'est pour ça qu'ils ont besoin de dormir, les enfants. Parce que les parents, ils ont besoin de vivre. Alors les enfants, ils ont besoin de dormir. Les gens, ils disent, mais non, les enfants, ils n'ont pas besoin de dormir. Oui, et ben toi, tu vis plus. Tu sais combien j'ai eu de cas de problèmes de shalom bayit? Parce que le gosse, à 11h, t'appelles, il est encore réveillé. J'appelle. Elle dit, écoutez, ma femme, moi. Je dis, mais qui on entend? Je dis, mais votre fils, il est encore là. Il me comprenait, il a 8 ans, on ne veut pas le forcer à dormir. Tu ne veux pas le forcer à dormir? Mais c'est toi qui dors plus, t'as pas compris encore. Mais lui, c'est bon pour lui qu'il aille dormir. Et c'est bon pour toi. Donc quand lui va dormir, il récupère et toi, tu construis ton couple. Mais quand est-ce? Tu crois qu'à 11h30 du soir, tu vas t'asseoir avec ta femme, tu vas dire, allez chérie, maintenant on va parler de nous. T'as plus envie, t'as envie d'aller dormir, ou alors de défouler. C'est vrai, bien ça. Rabotaï, il faut être logique. Même si on n'est pas religieux, on est obligé d'être logique. Moi, combien de fois j'ai dit, il n'y a pas une mitzvah pour tout le monde d'être religieux? Parce que comme ça tu penses. Mais il y a une mitzvah de ne pas être bête. C'est la première, elle est anticipée sur toutes les mitzvot. Comme ça, il dit le Rav Israël Salanter. Assour liot kessil. Et interdit d'être bête. C'est assour. Assour les gamrés. Comment quelqu'un il peut être hassid de la bêtise? Ça veut dire qu'il n'est pas parfaitement bête. Ah, d'assouf. Mais non, mon frère. Il faut être intelligent. C'est quoi intelligence? Même si tu n'as pas l'intelligence de la Gemara, il faut que tu aies l'intelligence de la vie. Regarde la vie, comment elle marche. Regarde de quoi ta vie a besoin. Regarde de quoi tu as besoin. C'est pareil. Il dit un enfant, c'est une caméra numérique. Il absorbe tout ce que tu lui donnes. Tu le vois 2h30 par jour. Alors donne-lui quelque chose que ça vaut le coup qu'il retienne. C'est marqué dans le Midrash que quand Yosef Hatzadik, il a failli fauter avec la femme de Potiphar. Parce que pendant un an, il lui a mis la pression. Tous les jours, elle était derrière lui. Elle était très belle. Il était très beau. Tous les jours, elle se changeait deux fois de tenue et elle remettait jamais la même tenue. Au bout d'un moment, il a failli craquer. Au bout d'un an, il a failli craquer. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et au moment où il a failli craquer, il a vu le visage de Yaakov Avinu. Ah là, il y a des commentateurs. Il y en a qui disent... Vous pouvez arrêter avec la pièce, là, ça me fatigue. Il y en a qui disent, il a vu le visage de Yaakov Avinu, c'est quoi? Ça veut dire que il a eu un miracle et le visage de Yaakov, il a apparu. Première lecture. Deuxième lecture, c'est quoi? C'est que lui, il avait le même visage de Yaakov Avinu. Il se ressemblait. Et quand il y avait un miroir là-bas, et avant de la faute, il a vu son visage dans un miroir, il a pensé à son père, il n'a pas fauté. Troisième lecture, c'est quoi? C'est que le chinour de son père, il est remonté à ce moment-là. Il s'est dit, mais je suis le fils de Yaakov Avinu, comment je vais faire ça? Ça s'appelle l'image du père. Comme l'image de la mère. Je me rappelle Rabbi Yaakov Zatzal, Rabbi Yaakov Toledano du Rinci. Il a dit un chidush une fois extraordinaire. Il a dit, Rabotai, chacun, il a de lui une image de son père. Il a dit, moi, j'ai une seule image de mon père. À chaque fois que je vois mon père, je le vois assis devant un CFR. Voilà, c'est ça. C'est ça, mon père. C'est ça, son père. Quand il dit, comment? Il dit, moi, je vois mon père à la pêche. Moi, je vois mon père devant la télévision. Moi, je vois mon père en train de taper la carte avec Maurice. Il dit, toi, moi, je vois mon père devant une Guémara. Alors, automatiquement, lui, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Comme son père. Maintenant, ils ont dit, les psychologues, que 67% des enfants à 40 ans ressemblent à leurs parents. Même si l'enfant, il a fait Katmandou, il a fait la révolution, il est parti du Maroc, il a été à Los Angeles, et là-bas, il a organisé des spectacles à Las Vegas. À 40 ans, il va se surprendre à parler et à réagir comme son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou non, tu vas ressembler à ton père. Maintenant, autant prendre le banc de ton père. De toute façon, ton fils, il va te ressembler. Alors, autant lui donner le bon de chez toi. Alors, tu as 2h30 à passer avec lui. Donne-lui 2h30, que ça vaut le coup qu'il s'en rappelle. Pas que tu as l'archouma quand tu dis de quoi. Tu dis, à ton avis, quelle image tu représentes pour ton fils? Toi, tu dis, eh ben, tu prends la caméra de ce qui se passe pendant les 2h30 où il est avec toi. C'est facile. S'il voit un type nerveux, un type écœuré, un type vidé, un type qui se plaint, un type que... Voilà ce qui lui reste. Pareil pour sa mère. Une fois, il y a un grand Talmid Chacham à Bnei Brak, Rabotai. Un grand Talmid Chacham à Rosh Kollel. Il a vu son fils. Il a dit à 20 ans, il a quitté la yeshiva. Il veut travailler, il veut de l'argent, il veut travailler, il veut de l'argent. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été voir le plus grand Mechaner, le plus grand spécialiste du Chinour à Bnei Brak. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je suis à Rosh Kollel. J'ai étudié depuis l'âge de 5 ans. J'ai écrit 24 livres sur le Talmud. J'ai des milliers d'élèves. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, racontez-moi un petit peu comment ça se passait chez vous à la maison. Il a dit, ben vous savez, on rentrait à telle heure et à telle heure, il y en avait beaucoup de problèmes de parnassa. Et à chaque fois, je parle avec ma femme, je dis comment on va faire pour payer la maison, pour payer le mariage, pour payer la voiture, pour payer. Voilà ce qu'il a entendu l'enfant. Donc l'enfant, il a été traumatisé par l'argent. Dès qu'il a pu, il a dit, je vais me rassurer pour l'argent. Tu dis, mais et toutes les heures qu'il a passées à l'Yeshiva, l'enfant, il t'a pas vu. Pourquoi un enfant, il est ingrat envers son père? Parce qu'il voit pas la tendresse du père. La tendresse du père, elle s'exprime de 6h du matin à 8h30 du soir, quand il se bat toute la journée au magasin avec les clients. Ça, c'est la tendresse du père. Mais ça se voit pas. La tendresse de la mère. Mon chéri, ma douceur, mon chéri, ma douceur. Donc l'enfant, il voit la tendresse de la mère. Donc il est plus facilement reconnaissant envers le père, envers la mère. Mais la tendresse du père, il la voit pas. Oui ou non? Alors comme il la voit pas. En plus, dès qu'il rentre le père, la mère lui dit, écoute, ça s'est mal passé avec David. Alors ça. Donc le père, il est obligé de jouer le flic maintenant. Donc non seulement qu'il voit pas sa tendresse, mais en plus, c'est CRS de service. Wacht matraque comme ça. Et après ça, tu veux que l'enfant, il arrive à respecter son père. Mais pour respecter quelqu'un, il faut l'aimer. Il a du mal à l'aimer puisqu'il a vu une image négative. Donc il faut qu'il se débrouille, qu'à part son rôle de CRS, il donne une image qui est respectable à son fils qui se débrouille. Ah, ici, il va dire, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Dis-moi, pourquoi tu travailles? Ça m'intéresse de savoir. Pourquoi tu travailles? Pour qui? C'est pareil, toi, la mère. Tu dis, mais j'ai pas la patience. Moi, les enfants, j'ai pas la patience. Moi, écoute, je peux pas, je peux pas. Mais pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? À quoi ça sert? Les gens disent, mais j'ai pas que ça dans ma vie, hein. Vous savez, je suis une femme au-delà de mon rôle de mère. J'ai jamais rencontré celle-là. Cindy Crawford, tunisienne. Il faut l'avoir vue, je l'ai vue, moi, c'est extraordinaire. Très spécial. Ouais. Je lui ai dit, mais madame, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il ne fallait pas les mettre au monde. Laissez tranquille, ils étaient bien. Ils étaient bien, pourquoi tu les as mis au monde? Quand tu les mets au monde, ça veut dire que tu as une responsabilité maintenant. Tu as 4 enfants, tu n'es pas encore responsable. Mais quand est-ce que tu vas être adulte? Si avec 4 enfants, tu n'es pas encore responsable, quand est-ce que tu vas être adulte? Tu dis à quelqu'un, c'est quoi le problème fondamental qui vous perturbe en ce moment? Et tu dis, j'ai un tailleur mauve, je n'ai pas encore trouvé les chaussures qui vont avec. C'est ça votre problème, c'est ça mon problème. C'est grave, hein. C'est comment ils appellent ça les psychiatres? Chelet. Là, c'est chelet. Hein. Là, t'as même pas commencé l'histoire, hein. J'ai dit tout de suite. Hein. Je suis mal, je me réveille la nuit, je me demande, est-ce que je vais aller du Faubourg Saint-Honoré ou je vais aller rumeler? Est-ce que je vais la trouver, cette paire de chaussures? Est-ce que je vais la trouver? Il y a Rabbi, où est-ce que je... Comment tu déranges Hachem pour des chaussures? Après, tu t'étonnes que les gens, ils marchent à côté de leur basket. C'est évident. À Botaï, le principe, il est simple. Il y a encore une place. Madame, il y a une place ici. Empochez-vous, ça me fait mal aux jambes.
Non, parce que ça gêne la femme.
Non, mais là. Pour la dame. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose simple. Ça veut dire que si moi, je comprends que pour moi, l'enfant, c'est une occasion d'exister. Comme moi, je suis pour lui une occasion d'exister. Donc, toutes les clés que je vais utiliser pour faire exister mon couple, c'est exactement les mêmes clés que je vais faire exister mes enfants. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'à une femme, tu peux lui expliquer. À un enfant, tu ne peux pas lui expliquer. À un mari, tu peux lui expliquer. Tu peux t'asseoir et discuter avec un adulte. Tu ne peux pas le faire avec un enfant. Et si vous allez me dire, « Ah, voilà un hidouche. » Il se trouve maison Alfort, je vois un hidouche. Oui. Je vous ai dit comment quelqu'un y devient. Parce que Vayadarta va aller vers Shevota. D'abord, il connaît. C'est Ene Asechel. Ça, c'est la théorie. Véhachévota, il fixe dans son cœur. Rabotai, avec sa femme, un homme, il fait Véhadarta, et avec ses enfants, il fait Véhachévota. Parce que la réalité, l'enfant, il ne comprend pas le synthétique, il ne comprend pas les idées. Donc, il faut que tu vives ce que tu penses. Comment tu as appris à le vivre? Grâce à ta femme, grâce à ton mari. Donc, avec ta femme, tu fais Véhadarta, avec ton mari, tu fais Véhadarta, avec tes enfants, tu fais Véhachévota. Là, c'est la théorie, là, c'est la pratique. Donc, l'enfant, il faut qu'il ait devant lui quelqu'un qui soit déjà au niveau pratique. Pas au niveau théorique, c'est pas que maintenant que l'enfant il a 17 ans que tu vas te demander qu'est-ce que c'est la crise d'adolescence. Hey, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Tu as commencé depuis le départ et c'est normal. Tu as géré une adolescente, c'est ta femme. Tu as géré un adolescent, c'est ton mari. Donc quand tu as aidé ton mari à dépasser sa crise d'adolescence et à devenir un homme, tu t'es préparé pour assumer la crise d'adolescence de tes enfants. Pourquoi ? Parce que tu as du recul. Or, qu'est-ce qu'il a besoin l'enfant ? Il a besoin de quelqu'un qui a du recul. C'est ça dont il a besoin. Il a besoin de parents adultes. C'est quoi un adulte ? Un adulte, c'est quelqu'un qui ne tombe pas dans le piège de la superficialité. Il arrive à se projeter sur la face intérieure des choses. Un enfant, c'est quelqu'un qui est pris par la superficialité. Alors, rappelez-vous de ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un homme et une femme. D'accord ? Il y a l'intérieur de l'homme, il y a l'intérieur de la femme. Il y a l'extérieur de l'homme, il y a l'extérieur de la femme. On a dit que l'amour, c'est la coexistence. Ça veut dire quoi ? C'est l'intérieur de l'homme qui rencontre l'intérieur de la femme. Vous vous rappelez de ça ou non ? Oui ou non ? Donc maintenant, regardez bien. Il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est essence en français. C'est l'essence. Et il y a le superficiel. Oui ou non ? Il manque quelque chose. J'ai l'impression de parler tout seul. Vous comprenez ce que je dis ou je parle tout seul ?
Oui.
Plus fort.
Je crois que la DAF de Maison Alfort, elle est spéciale. Regardez bien. S'il y a l'essentiel, c'est l'essence. Et le superficiel, c'est l'extérieur. Maintenant, on a dit que l'amour, c'est que les deux essentiels se rencontrent, puisque c'est les deux volontés, donc c'est les deux neshamot, c'est les deux essentiels. Mais ouvrez bien vos oreilles. Les gens qui ont des problèmes superficiels, ils ont des solutions superficielles. Les gens qui ont des problèmes essentiels, ils ont des problèmes essentiels. Il y a une troisième catégorie. Il y a les gens qui ont des problèmes superficiels et qui en font des problèmes essentiels. Parce qu'ils ont honte d'avoir des problèmes superficiels. Alors ils disent, non, c'est pas pour ça, c'est par principe. Donc ils rendent essentiel un problème superficiel. C'est quoi un adulte ? Un adulte, c'est quelqu'un qui ne tombe pas dans le piège du superficiel. C'est quoi un enfant ? C'est quelqu'un qui cultive le problème du superficiel. Maintenant, moi, j'ai une polémique avec toi. Polémique d'origine superficielle. Donc, je dois tout de suite dépasser le superficiel et gérer l'essentiel. Je veux dire, écoute, en adulte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais si moi, je rentre dans la polémique du superficiel, c'est que ça m'intéresse. Tu m'as pris mon ballon, remets mon ballon, tu m'as pris mon ballon, remets mon ballon, tu m'as pris mon ballon. Bon, ça va, ils ont 4 ans, c'est pas grave. Non, ils ont 34 ans. C'est mon appartement, c'est mon compte, c'est mon argent, c'est moi, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi ? Tu dis, mais vous êtes des gamins. Mais vous êtes des gamins. Les gamins, problème superficiel. Solution superficielle. Les adultes, problème essentiel. Un parent, c'est quelqu'un qui est capable de voir l'essentiel du problème. Chez son enfant, il regarde l'essentiel, il ne regarde pas le superficiel. Donc, il arrive à faire évoluer l'essentiel. S'il regarde le superficiel, il craque. Maintenant, si quelqu'un il va dire, mais comment on s'entraîne à voir l'essentiel ? Comment on s'entraîne ? Premièrement, en étudiant la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi ? C'est l'étude de l'essentiel. Tu cherches le sens de la Gemara, tu cherches le sens du Tosfot, le sens du Rashi, tu cherches l'enseignement de la Paracha, tu cherches toujours l'intérieur des choses. Dans l'enseignement Chol, on attend la terminale pour vous dire, cherchez le sens philosophique de ce texte. Dans la Mishnah, dès que tu commences à faire de la Mishnah, à 6 ans, on te dit quel est le pshat de la Mishnah. Je ne te parle pas des mots, je te parle du pshat. C'est quoi le pshat ? C'est le sens intérieur. Donc depuis l'âge de 6 ans, tu commences à chercher l'essentiel des choses. Après, tu juges les caves de route. Tu juges positivement, tu regardes l'essentiel de la personne. Après, altistakel bakankan. Ne regarde pas l'extérieur, regarde l'intérieur. D'aucun juif, toute sa vie, il cherche l'essentiel. Dans la réalité, qu'est-ce que tu cherches ? Dieu. Dieu, il est où ? À l'intérieur, c'est l'essentiel. Le bitachon, c'est l'essentiel de la parnassa. La médecine, l'essentiel, c'est la prière. Dans chaque chose, il y a un essentiel et un superficiel. Un adulte, c'est quelqu'un qui fonctionne selon l'essentiel. Un enfant, c'est quelqu'un qui fonctionne selon le superficiel. Parce qu'il n'a pas la capacité de synthétiser l'essentiel à travers le superficiel. Donc un adulte, normalement, il ne doit pas avoir des problèmes superficiels, puisqu'il est essentiel. J'ai claqué, mais normalement, ça aurait dû faire un grand claquage. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, toi, tu veux aider ton enfant à comprendre que dans la vie, ce qui compte, c'est l'essentiel. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, chez lui, qu'est-ce que tu cherches ? L'essentiel. Ah, où est le problème ? L'essentiel, ça ne se voit pas. Vous n'avez pas remarqué une chose ? L'essentiel dans la vie, ça ne se voit jamais. Regardez, l'intelligence, ça ne se voit pas. La neshama, ça ne se voit pas. La vérité, ça ne se voit pas. La valeur de quelqu'un, ça ne se voit pas. Tout ce qui est essentiel, ça ne se voit pas. Même le tzaddik qui est sod olam. Tu dis, C'est quoi Yesod Olam? Tu dis Yesod Olam, l'économie mondiale. Yesod Olam, la banque mondiale. Yesod Olam, c'est l'Amérique, les États-Unis. Yesod Olam, tzadik Yesod Olam. Tiens, un rave comme ça. Un netivot, là-bas, il est comme ça. Tu dis, arrête. Tzadik Yesod Olam. Le monde entier passe par lui. Il décide. Comme ça ou comme ça. Tzadik Yesod Olam. C'est quoi? C'est que les choses les plus grandes, elles prennent pas de place. C'est normal, puisque l'essentiel, ça ne se voit pas. Oui ? Alors, je vais vous dire un grand hidouche en mathématiques, puisque je vois que vous êtes tous versés dans les sciences. Ça se voit tout de suite dans la brillance de votre regard, malgré la DAF. Vous savez qu'entre deux points, on peut faire passer une droite. Vous savez ça ? Vous avez appris ça à l'école, hein ? Oui ? C'est faux. Rabotaï, c'est faux. Entre deux points, on ne peut pas faire passer une droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'une droite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, une droite. Une droite, c'est une série de points. Tu dis, mais je vois une droite. Tu veux voir une droite. C'est quoi la droite? C'est le lien psychologique que tu crées entre les points. Mais en vérité, il n'y a pas de points. La droite, c'est un principe virtuel. La preuve, sur ton ordinateur, tu traces une droite. Après, tu fais approcher le zoom. C'est le zoom. Qu'est-ce que tu vois? Une série de points. C'est quoi le Nimshal? Ouvrez bien vos oreilles. Je vous dis que des choses profondes ce soir. Vous savez pourquoi? J'ai pas de plan. Écoutez-moi bien. La vie, c'est une série de droites. C'est une série de points. Mais dans ces points-là, il y a une droite qui passe. Alors les points, on appelle ça le superficiel. Et la droite, on appelle ça l'essentiel. Je vous donne un exemple. Vous avez un couple. Baruch HaShem, vous avez un couple. Vous êtes marié, Mazal Tov. C'est quoi la vie de couple? C'est une série de points. Aujourd'hui, il y a ça, demain, il y a ça, après-demain, il y a ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, des fois, tu es très content d'être marié, et des fois, tu es très content d'être marié. Il y a des points. Comment quelqu'un il arrive à tenir dans son mariage? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un projet de couple, c'est-à-dire qu'il a une droite qui traverse tous les points. Aujourd'hui, il est là. C'est pas un cours sur les enfants, on va pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, il est là. D'accord? Demain, dans 10 ans, il veut être là. Il a un projet de couple. C'est quoi? Il a une droite virtuelle qui le fait pas. Ah non, ça je peux pas, ça. J'en ai qu'un. Donc, il a une droite qui le fait passer. Restez concentrés, s'il vous plaît. En général, quand il y a une perturbation, c'est que le cours est bon, parce qu'il est tard, il veut pas qu'on travaille. Écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles. Une personne, elle est là, elle veut atteindre là. Elle trace une droite. D'accord? Cette droite-là, on a dit, elle n'existe pas. C'est virtuel, c'est dans ta tête. Dans un couple, la vie, c'est une série de points. Comment tu arrives à supporter les points de chaque jour? Parce que tu as une droite dans la tête, tu as un projet. C'est pas rien, l'enfant. Tu veux éduquer un enfant, mais aujourd'hui, tu as déçu. Demain, il est bien. Demain, il est pas bien. Demain, il truc. Pourquoi? Parce que toi, ton enfant, tu le regardes pas aujourd'hui. Tu le regardes à 20 ans. Tu le regardes pas à 5 ans. Alors, comme tu le regardes à 20 ans, tu relativises la gravité du point dans la globalité de la droite. Je vous répète. Tu relativises la gravité du point dans la globalité de la droite. C'est pareil. Comme il y a de la boue entre toi et ta femme, ça c'est le global, c'est la droite. Même s'il y a des points qui ne marchent pas, tu dis, bah, au Hachem, on va s'arranger, on va s'aimer, on va s'arranger. C'est pas un point ponctuel qui va remettre en cause une globalité. Mais la globalité, Rabotaï, elle ne se voit pas, c'est vrai, c'est virtuel. T'as raison, l'amour, ça ne se voit pas. Oui ou non? Donc, c'est quand on a une droite qu'on peut relativiser le point. Rabotaï, quand on n'a pas de droite, le point, il devient abominable. Donc quand on n'a pas de projet, chaque point il devient drama. Quand on n'a pas de projet pour l'enfant, chaque situation devient une souffrance. C'est pour ça que la Torah elle te dit toujours, un homme il doit avoir des drachim, il doit avoir des chemins. Or qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bechol derachecha da'eu. Rabotai, da'eu, c'est pas une marque de voiture. Moi j'ai toujours pensé que les marques, elles ont été créées pour qu'un homme il se pose des questions. Parce que qu'est-ce que ça peut nous faire? Que ça s'appelle Telefunken ou là ça s'appelle... Pourquoi faire? Rabotaï, c'est marqué dans le Zohar que le Goy, il est là pour faire passer des messages. Regardez comment il s'appelle Sony. C'est quoi Sony en hébreu? Mon ennemi, c'est pourquoi? Parce que nous, on devrait retenir par cœur. Mais si on enregistre, on ne retient pas. C'est ton ennemi. Tu fais pas de tchouva, t'enregistres les cours. Avec quoi? Aïwa! Aïwa! Allez, bouge-toi! Tu vas arriver là, ouais, Chamidi, t'as pas fait de tchouva avec tous les cours que t'as enregistrés. Aïwa! Allez! C'est comme ça. Pourquoi cette voiture, elle marche? Comment elle s'existe? Daewoo. Daewoo. Vous vous rendez compte, un nom pareil? C'est grave. Est-ce qu'on appelle une voiture Da'eou d'abord? On dirait une sauce italienne. Oui. Da'eou, c'est ça. Bechol derachecha Da'eou. C'est quoi derachecha? C'est quoi un derech? Regardez, je suis venu ici. Monsieur Monsonugo m'a donné la route. Il m'a dit en sortant, vous prenez à droite, vous prenez à gauche, j'allais tout droit, vous prenez à gauche. Il m'a donné un chemin. Mais ce chemin, Rabotai, il est virtuel. Oui ou non? Il m'a pas donné les rues, il m'a pas donné les photos, il m'a rien donné, il m'a donné un chemin. Donc c'est une droite virtuelle qu'il a tracée dans l'espace. Toi, tes projets, on appelle ça derachecha. Bechol derachecha, dans tous tes projets, tu as un projet couple, un projet enfant, un projet carrière, un projet professionnel, un projet communautaire. Ça, c'est un derech. Bechol derachecha, da'eou. On a dit, c'est quoi la yédia, la connaissance, tout à l'heure? C'est faire corps. Avec qui, ici? Avec Hachem. Prends le projet d'Hachem et mets-le dans ton projet personnel. Fais qu'il fasse un, da'eou, qu'il fasse corps. Yédia, la connaissance. Bechol derachecha, da'eou. C'est marqué dans Pirkei Avot, Rabotai. C'est marqué, mi she'irato kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Celui que sa crainte, elle passe avant sa sagesse s'accomplit. Rav Eman, mon Rav, il avait dit comme ça. Il avait dit, irato, c'est quoi? C'est le projet de Dieu. Chochmato, c'est quoi? C'est le projet de l'homme. Si le projet de Dieu, il passe avant le projet de l'homme, il s'accomplit. C'est-à-dire que si ton projet personnel, tu l'inscris dans un projet de Dieu, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, alors ton projet, il va s'accomplir. Mais si tu fais un parallèle entre le projet de Dieu et ton projet personnel, il ne va pas s'accomplir. Parce que qui tu es, toi, pour qu'il s'accomplisse? Tu te prends pour le bon Dieu? Parce que tu as une boutique de 34 mètres carrés au sentier. Tu te prends pour le bon Dieu? Parce que tu es coté en bourse? Oui, mais tu es coté au Nasdaq. Rabotai, dans le Nasdaq, il y a un naze. Dommage pour ceux qui ont investi, ils n'ont pas vu le remez. Ouais. Alors, c'est fini. C'est pareil. Et à partir du moment où quelqu'un il comprend qu'un homme, il a besoin d'avoir des drachim. C'est quoi les drachim? Ça veut dire quoi? Il se projette dans la réalité. Ouais. Il voit l'avenir. Il voit l'avenir devant lui. Comment il voit l'avenir? Parce que Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Qui c'est le sage? Celui qui voit l'avenir. Pourquoi on a dit Arouet? Il fallait dire Amevin. Comment tu veux voir une chose qui n'existe pas? Rabotai, Koach Hatziur. Un homme, il a une force de créer une image. C'est quoi? Il projette la réalité de l'avenir. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit dans cette réalité. Quand quelqu'un vous donne un chemin, vous imaginez le chemin et ensuite avec la voiture, vous vous inscrivez à l'intérieur. Il y a un projet personnel, tu l'inscris avec une image. Toi, tu as une image de ton couple dans 20 ans et tu travailles pour que ton couple il s'inscrive dans cette image. Tu as une image de tes enfants dans 20 ans et tu fais pour qu'ils s'inscrivent. Maintenant, pourquoi on a besoin du Kouach Hatziur? Parce que si on n'a pas la force de l'image, on peut être à côté de l'image. Je veux dire, quand c'est trop virtuel, tu peux être à côté. Quand c'est trop théorique, quand quelqu'un il a une yédia, c'est trouve beaucoup de gens, ils ont une grande connaissance. Benara, ils ont une grande connaissance. Ouais. Celui-là, une fois j'ai rencontré quelqu'un, il avait une chaire de pédagogie dans une faculté. Ça veut dire qu'il enseigne la pédagogie. Donc tu dois dire, celui-là, il doit être pédagogue. Rabotai. Moi, j'ai eu sa fille dans les cours. Elle est venue, elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit, toute sa jeunesse, elle a passé dans les placards. Dès qu'elle avait un problème avec son père. Au placard, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le maximum, c'était une journée entière dans un placard. Ça, c'est un prof de pédagogie. T'as compris maintenant la différence entre la théorie et la pratique. Rabotai, si vous prenez un CD où il y a toute la Torah à l'intérieur et que vous l'enfoncez à l'intérieur d'une plaquette de beurre, est-ce qu'il va apparaître quelque chose sur l'écran? Maintenant, vous avez branché l'écran avec la plaquette de beurre, avec un port USB. Il n'y aura rien sur l'écran. Tu dis pourquoi? Tu dis parce qu'une plaquette de beurre. Oui. Eh ben, c'est pas compatible avec un CD. Rabotai. Même si vous prenez toute la Torah et vous la mettez dans une plaquette de beurre, c'est quelqu'un qui se conduit. Alors, c'est pas compatible. Il va rien avoir sur l'écran. C'est pour ça que c'est marqué Veyadarta Veshevota. Tu as pris la Torah, Chazaku Baruch. Il faut que tu la vives cette Torah. Sinon ta Torah, au lieu d'être une bracha, ça va être une klala pour toi. Tu as appris une chose. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Il faut que tu mettes en pratique. Dans le vécu, avec ta vie, avec tes enfants, avec ton Shulchan Aruch, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Pour que tu deviennes ce que tu as appris. Je t'ai dit, l'enfant, c'est une occasion pour toi de devenir. Donc, profite de l'enfant pour devenir. Grandis. Moi, je vous conseille de débrancher le petit écran parce que c'est ça qui bouffe toute l'énergie. Ah, il est sur secteur? Si vous comprenez ça, si vous comprenez, c'est extraordinaire. À partir du moment où quelqu'un comprend que l'enfant, pour lui, c'est une occasion d'être. Donc non seulement il ne va pas rater cette occasion, mais en plus il va l'optimiser. Et plus il va l'optimiser, et plus il va donner, et plus il va porter, et plus il va grandir lui. Alors qu'est-ce que ça peut lui faire que son enfant y grandisse? Eh bien fais-le. Et qu'est-ce que ça peut te faire que toi tu grandisses? Ah, mais si c'est comme ça, pourquoi on a tellement de mal? Pourquoi on a tellement de mal? Tu sais pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus confortable de ne pas exister que d'exister. Donc c'est vrai que je vous ai dit, les gens qui m'encouragent à exister, je les aime. Oui. Les gens qui m'empêchent d'exister, je ne l'aime pas. C'est vrai. Mais il y a une troisième chose que j'ai oublié de vous dire. Enfin, je ne pouvais pas vous le dire tant qu'on n'avait pas atteint cette maturité dans la conférence. C'est que les gens qui m'obligent à exister, je ne les aime pas non plus. Pourquoi les enfants ils font une crise d'adolescence avec les parents? Parce que les parents, ce sont les deux êtres qui les obligent à être des adultes. Donc les parents, même s'ils disent rien, même s'ils se la ferment, même s'ils restent devant l'enfant, rien que l'enfant il voit les parents, il comprend qu'il est obligé de devenir un adulte. Donc les parents obligent l'enfant à quitter le monde du rêve. Et pour ça, l'enfant, il fait une crise d'adolescence. Donc regardez comment on est mal placé. D'un côté, on est là pour aider les autres à exister. Mais d'un deuxième côté, le fait qu'on les aide à exister, ça leur crée un complexe de la non-existence. Et ça fait qu'ils ont un rejet. Par exemple, si vous faites une remarque à quelqu'un, vous accomplissez la mitzvah de Tochacha, c'est pour l'aider à exister. Mais quand vous lui faites la remarque, ça veut dire que vous êtes professeur et lui, il est élève. Dès qu'il est élève, il a le complexe de l'ignorance. Donc, il va rejeter votre remarque. La seule solution, c'est d'être professeur sans que lui soit élève. C'est-à-dire de faire passer l'information sans créer le complexe de l'ignorance. Vous me suivez ou non? C'est normal. Toi, tu veux exister. L'autre, il veut exister. Toi, tu veux l'encourager à exister. Mais fais attention que dans tes tentatives pour l'aider à exister, tu ne vas pas l'empêcher d'exister. Donc, si toi, pour l'aider à exister, tu lui crées un complexe, tu l'empêches d'exister. Si toi, tu dis des bonnes paroles, mais tu les dis mal, si tu les dis avec violence, donc au lieu de l'aider à exister, tu l'empêches d'exister. Rappelez-vous de ce principe. Un mensonge qui est dit gentiment, il passe mieux qu'une vérité qui est dite méchamment. Maintenant, toi, tu sais que tu as la vérité. Donc, automatiquement, tu gueules. Mais quand tu gueules, l'autre, il t'entend pas. Or, les gens qui s'écoutent sont des gens qui s'entendent. Donc, tu t'étonnes qu'il ne te comprend pas. Alors que toi, tu cries. Et puis, il ne peut pas te comprendre. Puisque dès que tu commences à crier, il ne t'entend plus. Vous comprenez? Ça veut dire que sa carte son, elle sature. Il n'entend plus rien. Ça, tu dis, mais ça fait des années que je lui répète. Et plus tu répètes, et moins il entend. Et je vais dire mieux encore. Plus tu répètes, et plus il frustre. Et plus il frustre, moins il va entendre. Donc il faut que tu trouves quelle est la longueur d'onde pour que l'autre il t'entende. Ce qu'on appelle en psychiatrie la hninout. Je sais que vous avez tous fait de la fac de psychanalyse. Mais vous l'avez fait à Oujda, vous l'avez fait à Marrakech. Au Hachem, vous avez appris la psychologie avec vos parents. Vous avez vu, appris la psychologie. Vous croyez parce que l'autre il n'a pas fait de fac, alors il n'a pas appris la psychologie. En Bretagne, moi, j'ai jamais ouvert un livre de psychologie. Je ne sais même pas la différence qu'il y a entre psychologie et psychanalyse. Je ne sais même pas. Les psychologues, ils s'énervent. Mais je ne sais pas. Je ne vais pas mentir. Je ne sais pas. Et alors? Pourquoi avant Freud, il n'y avait pas de psychologie? Au contraire, peut-être qu'il y en avait une avant. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il comprend. Vous avez appris la psychologie, mais vous l'avez appris de manière tacite. Parce que vous avez vu la façon de vivre de vos parents. Vous avez vu. Vous avez vu qu'il a envie de s'énerver, il s'est pas énervé, il a parlé gentiment. Vous avez vu qu'il a vu votre erreur, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il veut vous laisser exister. Nous, au contraire, on voit l'erreur. Alors, qu'est-ce que ça fait? Combien de fois t'as menti, toi? Combien de fois t'as menti? Rappelle-toi combien de fois t'as menti. Jamais ton père t'a dit que t'étais un menteur. Jamais. C'est pour ça que t'as réussi à faire, tu vois. Mais si un enfant, il ment, tu lui dis t'es un menteur. C'est ce qu'il dit, l'enfant? Il dit justement, je voulais savoir qui j'étais. Tu me l'as dit? Eh ben, c'est bon, je sais qui je suis maintenant. Vous savez pourquoi? Père, repère. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est pas pareil. C'est pour le libre arbitre. Père, repère. Le père, c'est un repère. Rabotaï, t'es un bon repère ou t'es un mauvais repère? Tu suis la ligne blanche. Donc la nuit, t'arrives à conduire. Oui? Tu suis la ligne blanche, t'arrives à conduire. Si un malin, qu'est-ce qu'il fait? Il trace une ligne blanche qui va dans un arbre. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il rentre dans l'arbre. Le père, c'est un repère. Donc quand t'as plus ton père, tu perds tes repères. Sauf si entre-temps, tu t'es créé tes propres repères. Mais si t'as aucun repère, t'es perdu. Donc c'est pareil. Nous, en tant que parents, toute la journée, on est en train de donner des repères à nos enfants. Là où il faut élargir un petit peu la réflexion, c'est de se rendre compte qu'on ne donne pas des repères seulement au moment où on s'assoit et on leur fait un Dvar Torah. Pas seulement au moment où on leur parle et qu'ils ont fait une bêtise. On leur donne des repères perpétuellement, à chaque microseconde, où ils vivent en notre présence. Donc tu sais que depuis 16h30 jusqu'à 20h30, ton fils, il est en absorption maximum. Il n'y a rien qui échappe. Et il envoie des choses. Hein. Oh là 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 là. Mais tu te mets les doigts dans le nez, il t'a vu. Tu bois la bouteille, il t'a vu. Tu dis une chose, il fait autre chose, il t'a vu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, mais c'est pas grave, parce que je lui ai expliqué que c'était pas bien. Hazak, tu lui as même appris comment on peut être un faux religieux. Chérianou, le khan. C'est la folie. Il n'y a pas. Vous comprenez ou non? Je vous ai dit, pendant la période la plus importante, l'enfant ne comprend rien. Il absorbe. Et après, il réfléchit. Comme dans l'étude de la Gemara. D'abord, Girsa, et après, Svara. D'après, tu apprends du texte, et après, tu commences à réfléchir. Mais si la Girsa, elle est mauvaise, si c'est pas faire le découpage de la Gemara, il va rien comprendre dans les idées. Maintenant, toi, ton fils, tu lui es en train de lui faire la Girsa. Allez, vas-y, donne-lui des phrases de Gemara. Combien de fois j'ai des parents, ils me disent, vous savez, j'ai un enfant rebelle, il écoute pas, il me jette. Depuis qu'il a fait sa bar mitzvah, il y a un rejet total, il y a plus de contact. Je dis, écoutez, l'enfant, c'est comme un ordinateur. De 13 à 20 ans, vous rentrez les disquettes. Rentre les disquettes. Tu dis, mais il m'écoute pas, il s'en fout, t'occupe pas, toi. Donne-lui. Et le jour où il va être conscient, il va maîtriser son yetzera, il aura quelque chose dans la tête. Mais si tu dis, de toute façon, il comprend rien, c'est pas la peine de lui parler. Alors, il a la révolte, et en plus, il a pas les disquettes. T'occupe pas. Dis-lui, tu sais, mon fils, la vérité, c'est comme ça, la Torah, elle dit comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà comment j'ai vu, comment j'ai appris. Il va te dire, mais arrête, laisse-moi tranquille, tu me saoules. Sache. Il dit ce qu'il veut, ça rentre. Demain, il va se calmer. Il va rencontrer une fille bien, il va rencontrer un professeur qui va le calmer. Même il va voir un film qui va lui dire, tu sais pas ce que tu as perdu de ton père. Il va cliquer, il va dire, je suis un fou, je suis un malade, je suis en train de me déchirer avec mon père, alors que mon père, c'est ça ma ressource. Et là, il va se rappeler toutes les disquettes, parce qu'il a les disquettes. Ton travail à quoi, c'est toi? Dire ça. Rien que mets les disquettes. Tu vas à la synagogue, de quoi tu parles? PSG, Hamor. Tu dis, mais c'est important le PSG. Parle-lui. Tu connais pas des Dvar Torah? Dis-lui de la moralité, dis-lui des principes, raconte-lui des histoires, n'importe quoi. Étudie le jour, enseigne-lui la nuit, et étudie la nuit, enseigne-lui. Débrouille-toi! Tu as des moments privilégiés. Rabotaille, ces petites secondes-là, elles sauvent ton fils. Ton fils, il va être seul. Quelqu'un va lui dire, bon, tu veux pas une petite dose? Il va voir le visage de son père, il va dire non. Quelqu'un va lui dire, écoute, j'ai des billets de 50 francs à 25 francs. Il va penser à son père, il va dire non. Quelqu'un va lui dire, j'ai du sucre en poudre à 100 balles le sachet. Il va dire non. Pourquoi il va dire non? Parce que tu lui as mis les disquettes, Rabotaille. Quand l'ordinateur, tu lui donnes un programme piraté, il rejette. Parce que ça sent mauvais. Quand toi, tu as mangé quelque chose de mauvais, tu vomis, ton corps, il rejette. Rabotaille, quelqu'un qui est éduqué à manger propre, son corps, il vomit. Quelqu'un qui est habitué à manger pourri, ça ne le dérange pas du tout. Au contraire, s'il donne quelque chose de propre à un type qui est habitué à fouiller les poubelles, il va mourir. Il n'est pas habitué aux choses propres. Donc toi, tu éduques ton fils au propre. Maintenant, quand tu ne seras pas là, il sera quand même une personne mature. Parce que de toute façon, le pourri, il va le rejeter. Il dira, je ne peux pas faire ça. C'est pareil ta fille. Depuis qu'elle est petite, tu as appris la moralité, tu as appris la pudeur, tu as appris la snihout, tu as la propre... Parce qu'elle a vu sa mère, elle l'a vu. Donc si quelqu'un lui dit, bon, on passe un petit quart d'heure tous les deux, elle dira, mais si sa mère, elle faisait des blagues grossières comme elle, donc la fille, elle dira, ben pourquoi pas? Après tu vas dire, mais t'es vraiment une fille. La fille, elle dit, je suis comme toi, maman. Ah, je suis un peu précoce. Oh, peut-être que j'ai fait ce que t'arrivais de faire quand t'avais 17 ans. Que vous comprenez? Rabota, il faut être clair. Les enfants, c'est des caméras numériques. Et si tu viens me dire, ah, on peut plus vivre alors. Alors on est mort. Au contraire, tu peux exister maintenant. Tu peux être toi-même. Le tzadik qui est au fond de toi, montre-le à tes enfants. Tu dis, mais j'y arrive pas. Ah, c'est la raison, c'est marqué dans la Gemara, dans ta mine, la flamme de bête. C'est marqué, Arot Selihyot. Yamout. Je vous fais une bracha à tous, Rabota. Yamout. Je dis, mais comment? Il est fou, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Rabotai, c'est marqué Yamut à Yetzer Hara. Tu veux exister et tu tues ton Yetzer Hara, Arot Selichiot, Yamut, parce que qu'est-ce qui t'empêche de vivre ton Yetzer Hara? Qu'est-ce qui t'empêche ton Yetzer Hara? Il t'empêche d'être toi-même, il t'empêche de t'affirmer, il t'empêche de penser, il t'empêche de vivre, il donne une priorité à ton corps, il donne une priorité à tes pulsions, il donne des prix à la bêtise, c'est lui qui donne la priorité au superficiel, c'est lui qui fait que t'es écœuré de l'essentiel, c'est lui qui fait que t'aimes pas la Torah. Donc, que ce type-là, il meurt, et le jour où il va mourir, toi tu vas naître. Rabotai, t'as un dealer et un drogué. Tu pries pourquoi? Tu pries pour la mort du dealer, parce que le jour où le dealer il meurt, le drogué il vit. Donc le dealer c'est Yetzer Hara, c'est lui qui donne la drogue au Yetzer Hatov. Or un homme il ne peut pas devenir mature tant qu'il a Yetzer Hara, parce que Yetzer Hara, puisqu'il existe à sa place, il empêche de se confronter avec la réalité. Donc quelqu'un qui réagit selon son Yetzer Hara, il n'existe pas. Puisque exister, c'est se réaliser dans le monde. Et le Yetzer Hara, il existe à ta place, puisque Rechaim Beyad Yitzram. Les Rechaim sont entre les mains de leur Yetzer Hara. Donc quelqu'un qui maîtrise son Yetzer Hara, il existe. Mais celui qui ne maîtrise pas son Yetzer Hara, il n'existe pas. Puisque Rechaim Behayem Nikraim Metim. Oui. Or c'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui t'empêche d'exister. Donc c'est quoi le Yetzer Hatov? C'est celui qui a besoin d'exister. Dis-moi ta femme, quand elle t'aide à te dépasser, à dépasser ton Yetzer Hara, elle t'aide à exister. Tes enfants, quand ils t'aident à te dépasser, ils t'aident à exister. Donc en fin de compte, l'éducation des enfants, le Shalom Bayit et la construction personnelle, ça passe par la lutte contre le Yetzer Hara. Or se connaître soi-même, c'est quoi? C'est faire la distinction entre le Yetzer Hara et toi. Le Shalom Bayit, c'est quoi? C'est parler à la femme et non pas à son Yetzer Hara. Je vais vous dire un exercice facile. Quand vous vous engueulez tous les deux, vous savez ce que vous dites? Vous dites à votre femme, ça vous dérange pas, je voudrais parler à ma femme. Alors elle dit, c'est qui? Dis-moi, moi celle-là je la connais pas. Moi j'étais avec une femme sous la roupa, une femme responsable, une femme à l'écoute, une femme tendre. Celle-là je la connais pas, c'est très mal, je la connais pas. Je voudrais parler à celle qui est derrière. Alors enlève ton masque! Ça veut dire quoi? Maîtrise-toi! Il y a deux voitures. Il y a le pilote, le copilote. Dites-moi, qui c'est qui va conduire avec un copilote aveugle? Imagine, tu fais un rallye, il l'appelle le rallye de la mort. C'est un rallye qui va te coûter très cher. Rallye. D'accord? Pourquoi? Parce que le copilote, il est mort. Il est aveugle. Tu es fou? Comment tu donnes ta vie à un copilote aveugle? C'est possible ça? Non. C'est impossible. Regardez, une personne, elle est faite en trois parties. Le corps, le nefesh et la neshama. Le nefesh, il est divisé en deux. Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Ça va? Regardez bien. Vous me suivez tous? Dites-moi, le corps, il voit le corps? Il est intelligent, le corps? Il est sérieux, le corps? Le corps, il est fou. C'est seulement parce que le sechel, le cerveau, il maîtrise le corps. La preuve, quand vous buvez de la lisette, mais, je veux dire, en intraveineuse, ouais. Donc, vous n'avez plus de contrôle de votre corps. Ça veut dire que quand un homme n'a plus de cerveau, son corps, il est fou. Ça va? Donc, regardez bien. Une personne inconsciente, c'est une personne qui a un corps fou. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui dit, coupe la conscience. Parce qu'un homme ne faute que si il est fou. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. D'accord? Donc, quand un homme, il perd la conscience, il a un corps fou. Donc, quelqu'un qui se remet entre les mains du Yetzer Hara, il a décidé d'être fou. Parce que dis-moi, comment il peut se mettre en colère comme ça? Comment il peut dire des gros mots comme ça? Comment il peut ne pas respecter comme ça? Comment il peut détruire sa famille? Comment il peut détruire sa maison si c'est pas qu'il est fou? Tu dis, mais il est pas fou, on sait bien qu'il est pas fou, puisqu'avec les clients, avec tout le monde, il est très bien. Ça veut dire que là où il faut construire, il se met entre les mains du Yetzer Hara. Mais là où il n'y a rien à construire, il se met entre ses mains. Et le Yetzer Hara, ça lui fait rien de le laisser libre, de faire des bêtises. Mais il l'empêche de faire des choses bien. Or, on a trois choses bien à faire. Construire son être, construire son couple et construire ses enfants. C'est là qu'il y a la vraie guerre. Mais quand quelqu'un il lutte contre son Yetzer Hara, de ne pas exister, donc il existe. Et quand il lutte contre le Yetzer Hara de sa femme, pas contre sa femme, contre le Yetzer Hara de sa femme et contre le Yetzer Hara de son mari, ça veut dire qu'une femme, elle peut dire à son mari, chéri, je voudrais te parler à toi. Je sais que c'est pas toi, je sais que tu te maîtrises pas, que tu te laisses aller, que tu es dans une crise de susceptibilité. Je sais que c'est pas toi, chéri, ça ne te dérange pas, je voudrais te parler à toi. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'essentiel. Rabotai, les gens essentiels, ils n'ont pas de problème superficiel. Si c'est deux Yetzer Hara qui se rencontrent, c'est deux superficiels. Deux superficiels, ils ont des problèmes superficiels. Or, c'est rare que les solutions fausses à des faux problèmes amènent des vraies solutions. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? La moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes et l'autre moitié, ils essaient de trouver des solutions. Mais même s'ils trouvent des solutions, ils ont solutionné des faux problèmes. Maintenant, tu as 14 ans, allez. Tu as 18 ans, allez. Tu as 28 ans. Tu as 38 ans. Faudrait que tu te poses des vrais problèmes. C'est pas grave d'avoir des vrais problèmes, Rabotai. Ça veut dire que tu as déjà la moitié de la solution. Parce que celui qui a des vrais problèmes, c'est qu'il a la maturité pour avoir des vraies solutions. Alors quand quelqu'un, moi il me dit, moi ma femme me pose des problèmes, j'ai peur pour lui. Mais quand quelqu'un me dit, moi j'ai un vrai problème avec ma femme, je dis, celui-là il est en cours de thérapie. Baruch HaShem, je te souhaite d'avoir des vrais problèmes. Parce que celui qui a des vrais problèmes, des vraies solutions. Or il y a un principe. Tous ceux qui ont fait de la chirurgie, ils savent ça. Plus la blessure elle est profonde, plus la cicatrice elle est solide. Plus la blessure elle est profonde, plus la cicatrice elle est solide. Donc c'est vrai qu'il y aura des déchirures dans le couple. Mais il y a des cicatrisations. Il y a des gens, Blainara, ils n'ont jamais eu de déchirure. Ouais, mais ils n'ont pas de cicatrisation non plus. Ils sont là à côté de l'autre. C'est pareil. Avec les enfants, Rabotai, il va y avoir des déchirures. Il va y en avoir. Ça va te faire des nœuds. C'est vrai. Baruch HaShem, il y aura des crises. Et il y aura des cicatrisations. Qui c'est le fou? Celui qui dit, oh, j'espère qu'il n'y aura pas de crise. Mais tu n'as pas compris que si ton fils ne fait pas la crise avec toi, il va la faire avec sa femme. Vous savez comment on appelle une crise d'adolescence à 40 ans? Un adultère. Vous savez comment on appelle une crise d'adolescence dans le business? Un dépôt de bilan. Comment on appelle une crise d'adolescence qui est post-dépôt de bilan? Une dépression. C'est que le mec, il a rêvé, il était encore un enfant. La réalité lui a pris en pleine tronche, il n'est pas prêt à la réalité. Hop! Comme il n'arrive pas à exister, il va inister, ça s'appelle une dépression. Donc plus vite l'enfant il fera l'expérience de la réalité, ce qu'on appelle le passage à la réalité, donc la fin du rêve. Oh, la crise d'adolescence c'est la fin du rêve et le début de la réalité. Donc un enfant il fait sa crise d'adolescence, Baruch HaShem, mais qu'il la fasse entre 15 et 18 ans. Pourquoi tu veux qu'il la fasse à 58 ans? Et il l'a fait, hein. Tu la vois à l'autre. Elle est grand-mère, elle dit, elle se fait 4 lifting, elle s'achète des pulls moulants. Tu dis, mamie, mais ça y est, et quoi, j'ai jamais pu vivre. Ton père, il m'a empêché de vivre, maintenant j'ai envie de vivre ma vie. Alors tu la vois, elle se met du gel, elle se maquille, voilà, elle se tire la peau, elle se refait la poitrine. Tu dis, mamie, ça y est, mamie, t'es une mamie. J'ai pas le droit de vivre, alors j'ai jamais eu le droit de vivre. Maman, écoute, maman, détends-toi. T'étais une petite fille, c'était bien. T'étais une jeune fille, c'est bien. T'es devenue une femme, c'est bien. T'es devenue une mère, c'est bien. T'es devenue une femme responsable, au Hachem, c'est bien. T'as pu travailler, t'as fait des choses, au Hachem. T'es devenue une grand-mère, ah ben c'est bien. Chaque étape, elle est bonne. Elle te dit non, parce que moi, je suis passé de l'état de petite fille à l'état de grand-mère, parce qu'on m'a mis en hibernation pendant 40 ans. Alors j'ai envie de vivre ma vie. Tu dis, mamie, je préfère que tu rattrapes psychologiquement que tu rattrapes physiquement. Et qu'est-ce qu'ils font, Rabotai, les gens qui font des crises? C'est des gens qui veulent rattraper physiquement ce qu'ils ont raté psychologiquement. Vous comprenez? Écoute, mamie, va faire une thérapie, parle à ton psy, vide-toi la tête, reconstruis-toi, étape par étape, et tu verras qu'en vérité, ta vie de femme, tu l'as vécue. Ta vie de mère, tu l'as vécue. Ta vie de femme responsable, tu l'as vécue. Et maintenant, tu peux entamer ta vie de grand-mère tranquillement! Oui ou non? Pourquoi elle ne veut pas? C'est pourquoi? Parce qu'elle croit que quand elle fait des lifting, elle fait reculer la date. Mais ma fille, on peut tendre la peau, mais on ne peut pas tendre la vie. Tu dis, j'ai tendu ma vie. Elle est plus longue. C'est la même chose. Rabotai, c'est la même chose. C'est pareil. Un homme, il a un petit garçon. C'est bien, un petit garçon. Hein? Après, il a un jeune garçon, comme ça, 10 ans. Oui, il commence à avoir des idées, tout ça. Après, il devient un jeune homme. Un jeune homme, c'est bien, 18, 19, c'est bien, c'est un jeune homme. Après, il se marie, il devient un homme, obligé, maintenant, une femme, je suis un homme, obligé. Après, il devient un père, il y a des enfants, et puis il devient père. Ben, les enfants, ils sont tellement saoulés qu'il est obligé de devenir un père. Hein, c'est comme ça, un père, c'est, ça prend 7 ans pour devenir père. C'est pas le jour de la Mila. Hein. 7 ans. 7 ans, il te prend la tête. 7 ans, il te saoule. 7 ans, il te réveille la nuit. 7 ans, tu le bordes. 7 ans, tu réfléchis. 7 ans, tu trouves des solutions. 7 ans, il te pose des problèmes. Au bout de 7 ans, il fait une grosse bêtise. Tu as envie de lui éclater la tête. Et tu dis non. Il faut que je lui parle. Ça y est, t'es devenu un parent. Ça t'a pris 7 ans. Et là, ça leur prend 40 ans. Après, ton fils, il grandit. Ça, c'est plus embêtant. Parce que quand il est petit, c'est de l'élevage. Mais quand il grandit, c'est du partenariat. Avec un gosse, on négocie pas. Avec un gosse. Avec un gamin. Oui, mais le gamin, il a 18 ans. Il est 1m85. Il pèse 112 kilos. Il est champion d'Europe de taekwondo. Je te conseille de négocier. Il n'est pas douillé, celui-là. Vous comprenez ça? Comment tu vas faire? C'est pareil dans la bouteille. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbe. L'enfant, quand il est petit, tu es obligé d'être super interventionniste. Et plus il grandit, regardez bien, il est petit, tu es interventionniste. Et plus il grandit, et moins tu es interventionniste. Ça fait une courbe opposée. Par contre, moins tu es interventionniste, plus tu es partenaire. L'enfant, il a 17 ans. Tu ne vas pas l'habiller, tu ne vas pas le laver, tu ne vas pas le truquer. Ah, physiquement, oui! Donc physiquement, il a moins besoin de toi. Mais psychologiquement, il a plus besoin de toi. Alors, est-ce que tu vas être au rendez-vous? Ou tu vas dire, il y a 6 mois, je changeais ta couche. Tu baisses les yeux, oui? Je dis, papa, j'ai 20 ans, j'ai envie de parler avec toi. Non, j'ai un problème, j'ai envie de parler avec toi. Il n'y a rien à dire, moi, j'ai parlé avec mon père, moi. Tu vas au lit, tu t'écrases. Punaise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi pour toi. Mais comment il n'a pas grandi? C'est toujours dit. Les parents, ils ne vont pas grandir leurs enfants. Je ne comprends pas. Ça ne veut rien dire. Ben, il grandit, non? Ta voiture, tu la changes, pourquoi? Tu dis, ça fait 5 ans, 10 ans. Ta maison, elle se fissure, tu l'entretiens. Donc, tu sais bien que ça grandit. Pourquoi les enfants ne grandissent pas? C'est pourquoi ils grandissent pas, les enfants? Parce qu'on ne veut pas qu'ils grandissent. Parce que quand tu as rendez-vous avec l'enfant, tu as rendez-vous avec toi-même. Il y a leur papa. C'est quoi la vie? T'as quelque chose à lui dire ou non? Peut-être t'as rien à lui dire. Alors tu recules lors du rendez-vous. Si je pouvais la rater, ça serait l'idéal. Mais tu ne pourras pas la rater. Parce que si tu la rates, il va être obligé de prendre rendez-vous avec le psy pour régler son problème avec son père. Tu préfères qu'il règle avec le psy? Mais le psy ne comprend rien. Il est loin de comprendre ton fils, parce qu'il n'a pas mis au monde. Mais toi, tu peux le comprendre. Tu dis, mais il va falloir que je parle avec lui, que je m'ouvre, que je m'explique. Ben, c'est pas grave. Parce qu'en texte, regarde, en texte, expliquant, mais tu vas exister. C'est bien pour toi, dis merci, dis Mazal Tov. Tu viens d'assister à la naissance d'un homme, c'est toi. Et tu vois, quelqu'un m'a dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'assister à l'accouchement? Je dis, si. Il m'a dit, ah bon? Oui, de vous. Ton accouchement, tu as le droit d'assister. L'enfant, il accouche un jeune homme. Le jeune homme, il accouche un homme. L'homme, il accouche un père. Tu t'accouches perpétuellement, t'as pas remarqué? L'homme de 44 ans, il accouche un homme de 45 ans. C'est comme ça la vie. On s'accouche perpétuellement. Si quelqu'un y refuse, il va avoir des problèmes. C'est trop dur. Vous savez quand est-ce qu'un homme il devient grand-père? J'arrive. Vous savez quand est-ce qu'un homme il devient grand-père? Quand? Ouvrez bien vos oreilles. Quand le jour il accepte que son fils il est devenu un homme. Alors pourquoi tu vois des grands-pères? Ils ont 80 ans, ils sont encore là. Mais vous n'avez pas compris, je ne sais pas comment. Vous savez parce que c'est les enfants, nous on a des enfants, je vais vous dire, alors comment il faut faire? Attends, tu dis papa, attends papa, comment t'as fait avec maman toi? Ah, on s'est débrouillé, alors. Laisse-nous qu'on se débrouille, laisse-nous. Mais vous n'avez pas compris, vous les jeunes, vous ne connaissez rien. Vous. Maman, papa, laisse-nous qu'on se débrouille, je suis poli papa. Laisse-nous. Comment je vais me débrouiller de l'embrouille que tu m'as donnée si tu ne me laisses pas me débrouiller? Alors je vais me débrouiller. Laisse-moi me débrouiller. Il ne veut pas que tu te débrouilles. Parce que si tu te débrouilles, lui, il n'a plus de raison d'être. Mais non, il a une raison personnelle d'être. Il doit être pour lui. Une personne, c'est 4 personnes. Rappelez-vous de ça. Vous êtes toujours 4 personnes. Vous êtes un homme, un fils, un père et un époux. Toujours 4 personnes en même temps. La femme, c'est pareil. La femme, elle est femme, fille. Elle est fille de sa mère, fille de son père. Ouais. Elle est mère. Et elle est épouse. Toujours 4 personnes. Donc il y a une interaction. La femme, elle doit être bien dans sa peau. Comme ça, elle peut équilibrer la mère qu'elle est. Elle peut équilibrer l'épouse. Elle peut équilibrer la fille. Maintenant, le mari, il va aider la femme à être la mère. Il va aider l'épouse à être une femme. Donc la femme, en étant une femme, elle peut être une mère. L'homme, la femme, elle va aider son mari à devenir un homme. Donc ça va l'aider à être un père et à être un époux. Donc il y a une interaction entre les 4 éléments. À chaque fois qu'il y en a un qui déglingue, il déglingue les autres. Par exemple, si une femme est en attente de son époux et que son mari ne lui apporte pas, c'est son être de femme qui est déglingué. C'est interactif. Vous comprenez ça? Donc si on est tous comme ça, donc nos enfants ils sont comme ça. Seulement nous la différence c'est que nous on est déjà et eux ils sont en passe de devenir. Alors quand on va les aider à devenir, c'est aussi une occasion pour nous d'être. Alors venez, on saisit l'occasion d'être au travers du devenir de nos enfants. Il dit maintenant toutes les facettes que tu vas trouver dans la construction personnelle, tu vas les trouver dans la construction du couple et tu vas les trouver dans la construction de l'enfant. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est la construction de soi-même ? C'est le respect de soi. Qu'est-ce que c'est la construction de l'autre ? C'est le respect de l'autre. Et qu'est-ce que c'est la construction de l'enfant ? C'est le respect de l'enfant. Alors c'est quoi le respect de l'enfant ? C'est lui donner le droit d'être à l'enfant. Or tu connais toi le moteur. Tu sais que la tendresse, elle est moteur pour encourager l'enfant à exister. Et tu sais que le kavod, il est moteur pour donner un espace de liberté à l'enfant. Donc tu connais les règles. Alors applique les règles. Applique les règles. Tu fais kavod à l'enfant, l'enfant il existe. Tu donnes l'amour à l'enfant, l'enfant il est encouragé à exister. Tu veux qu'il avance à l'école ? Donne-lui de l'amour. Tu veux qu'il ait de l'assurance ? Donne-lui du respect. Tu veux qu'il ait de l'affirmation ? Donne-lui du respect. Tu veux qu'il ait de la créativité ? Donne-lui de l'amour. C'est facile. C'est la même chose, rabotaille. Vous, quand vous voulez faire sortir ce qu'il y a dans la marmite, vous faites bouillir. Donc fais bouillir ton fils. Pardon. Fais-le bouillir. Comment tu le fais bouillir ? Je vous ai dit, la chaleur, elle bouleverse. Le kavod, il entretient. Il encourage à exister. Donc vas-y. Et c'est simple. Toutes les règles du chinour, elles sont dans ces deux principes. Après, il va y avoir des millions et des millions et des millions. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch du chinour ? Parce que Hanor, Lenahar, Alpi, Darko. On va éduquer un enfant selon son chemin. Il dit le Gaon de Vilna, Darko, c'est derrière chez la Ben. D'après l'enfant lui-même. L'enfant, il faut absolument lui trouver son chemin à lui. Maintenant, si quelqu'un va dire, mais son chemin à lui, je ne le connais pas. Mais dis-moi, mon frère, d'où il sort celui-là ? Les poiriers ne font pas des fraises. Oh ! D'où elle sort cette poire ? D'un poirier ! Donc quand tu connais l'enfant. Donc tu peux l'aider. Donc la Torah, elle n'a pas besoin de donner un Shulchan Aruch, puisque toi, te connaissant, tu sais ce qui t'a aidé à exister. Donc les décapsuleurs qui t'ont aidé à te réaliser, tu vas les utiliser pour décapsuler l'enfant. Regardez, un diamant, il est brut. D'accord ? Il est brut, un diamant. Il est brut. Quand vous mettez des coups de marteau dessus, à chaque fois que vous mettez un coup de marteau, il y a une facette du diamant qui apparaît. Maintenant, je vous le dis, le diamant le plus cher du monde, il a 284 facettes. Il faut savoir qu'un diamant, en moyenne, il a 70 facettes. Comme par hasard, comme la Torah. Par hasard. Maintenant, le diamant le plus riche, il a 284 facettes. Chaque personne, elle a des millions de facettes. Chaque personne a des millions. Les facettes, on appelle ça les nitsutsot, les étincelles. Chacun d'entre nous a des millions de facettes, puisqu'on a autant de facettes que de jours à vivre. Donc chaque jour, il y a une facette de toi qui peut s'exprimer. Qui sont les tailleurs de pierre ? La vie, le yetzer hara qui t'oblige à dévoiler des facettes de toi-même, les enfants, les parents, ce sont des décapsuleurs de facettes. Il tape un coup, une facette. Il tape un coup, une facette. Il tape un coup, une facette. Quand on est tailleur de pierre à Bataille, qui sait, qui croit qu'au premier coup, il aura un diamant taillé ? Faut pas être bête. Donc c'est quoi le calcul ? C'est de se dire, j'ai une grande ambition pour mon enfant, mais j'accepte qu'il va se dévoiler petit à petit. Pourquoi je m'énerve ? Parce que moi je voudrais qu'il soit aujourd'hui comme moi j'étais à 30 ans, mais lui il a 8 ans. Toi, tu as mis 22 ans pour devenir ce que tu es devenu. Pourquoi tu voudrais que lui soit comme ça ? Par exemple, tu lui expliques un truc qu'il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu ne comprends pas ? Parce que je comprends moi. Oh, il te regarde, il dit, papa, tu as 30 ans, moi j'ai 8 ans. Tu étais pas comme lui à 8 ans. Donc toi, on t'a laissé le temps de devenir. Eh bien, laisse-lui le temps de devenir. Une fois, quelqu'un m'a dit, vous savez, aujourd'hui, les parents, c'est la nouvelle génération, heureusement, parce que nous, avec nos parents, on n'a pas pu communiquer, on n'a pas pu s'ouvrir, on n'a pas pu échanger. Ils étaient fermés, ils étaient coincés, ils étaient dans leur coin. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que c'est vrai qu'il y a des sujets qu'il aurait fallu aborder, qu'il aurait fallu s'ouvrir et qu'on aurait voulu parler avec eux, c'est vrai. Mais d'un autre côté, les parents qui interviennent, les parents interventionnistes, quelque part, ils t'empêchent d'exister. Alors qu'un parent absentéiste, même sans le vouloir, il te laisse un espace dans lequel tu peux te réaliser toi-même. C'est que quelqu'un qui t'impose son expérience, il t'empêche d'exister. Or, l'expérience, c'est ce qui permet d'atteindre la maturité. Donc, quelqu'un à qui on impose une expérience, puisqu'il ne peut pas avoir la sienne, donc il n'aura jamais une expérience qui est exactement adaptée à lui. Or, celui qui n'a pas d'expérience, il est immature. Donc, les parents interventionnistes et surprotectionnistes, ils créent des enfants immatures. Alors que les parents qui laissent les enfants se débrouiller, d'un autre côté, ils les rendent matures. Alors, comment tu vas trouver l'équilibre entre le fait qu'il faut intervenir et le fait qu'il ne faut pas intervenir ? Rabotaï, la courbe, elle est simple. Il y a deux courbes. Quand l'enfant il est petit, il faut intervenir physiquement. Mais quand l'enfant il grandit, il faut intervenir psychologiquement. Il y a un âge où il faut agir, il y a un âge où il faut parler. Qu'est-ce qu'ils font les gens au moment d'agir ? Ils parlent, ils passent des heures à expliquer à un enfant de 8 ans que c'est pas bien de mentir. Ils pigent rien. Ça sert à rien. Katanen bodaat. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu veux qu'il mente pas ? Arrête de mentir toi. Donc au moment d'agir, ils parlent. Et au moment de parler, là l'enfant il a besoin de parler. Là, ça fait 3 fois qu'il se fait attraper au commissariat. Il faut qu'il s'assoie avec toi et qu'il parle avec toi. Il dit non, moi je lui parle pas. Il m'a déçu, moi je lui parle pas. C'est pas mon fils. Mais Hamor, pourquoi il a volé ? Pour provoquer que tu joues ton rôle de père. Et toi, maintenant qu'il a volé, tu dis t'es plus mon fils. Mais c'est maintenant qu'il a besoin d'un père, c'est pas quand il vole pas. Quand il vole pas, c'est qu'il a une conscience. Mais s'il vole, c'est qu'il a pas de conscience. Or, qu'est-ce que c'est le père ? Le père, c'est le transfert de la conscience du fils. Ça veut dire que tant qu'un fils n'a pas de conscience, il a besoin d'un père. Mais le jour où il a une conscience, il a plus besoin de père. Donc puisque lui il vole, c'est qu'il a pas de conscience, donc il a besoin d'un père, alors donne-lui un père. Tu dis non, il n'est plus mon fils. C'est raté. Il va falloir qu'il revienne en Gilgoul. C'est exactement l'inverse. Alors Rabotaï, c'est simple. Quand l'enfant il est petit, il a besoin d'une assistance pratique. Donc j'agis et je montre. J'agis et je montre. J'agis. Je lui donne à manger, je lui donne à boire et je lui donne l'exemple. Manger, boire, exemple. Manger, boire, exemple. Après, quand il grandit, 14, 15, 16, 17, il a moins besoin que j'intervienne. Il se lave tout seul, il s'habille tout seul, il mange tout seul. Ça sera pour lui. Heureusement. Par contre, maintenant, je vais parler. Je vais prendre du temps avec lui. Je vais l'emmener au boulot. Bah, je pars à Lyon. Je l'emmène avec moi. C'est pas grave. Je dis, emmène-le. Qu'est-ce que ça peut faire? Il va rater un jour d'école et alors il va gagner 10 ans de maturité. Tu vas t'ouvrir, tu vas lui expliquer, tu vas lui montrer. Il va dire, ah ben je comprends le boulot de mon père maintenant. Ah, je comprends pourquoi il n'avait pas les nerfs. Donc il va apprendre à t'aimer. Il va apprendre à t'apprécier. Il va t'apprendre à faire un avec toi. C'est pareil, la mère, elle va s'asseoir avec son fils. Elle va dire, viens chérie, je vais t'apprendre maintenant, je vais te parler. Je vais t'expliquer. Elle va savoir avec sa fille. Rabotaï, vous savez pourquoi une fille, elle se fait draguer à 17 ans? Pourquoi? Pourquoi elle se fait draguer? Parce qu'elle a besoin de tendresse et de reconnaissance. Maintenant, un petit malin. Il sait que la fille, elle a besoin de tendresse et de reconnaissance. Donc, il lui dit, je t'aime et t'es une fille super. Mais si elle avait entendu de ses parents, elle n'aurait pas eu besoin d'un dragueur pour lui dire. Ça lui aurait coûté moins cher, Rabotaï. C'est pour ça qu'elle drague. Pourquoi elle se fait draguer une fille? Vous avez déjà demandé? Elle ne connaît ni Dev ni d'Adam. Il y a un bruit assourdissant dans la boîte de nuit. Elle rencontre un mec qui est plus proche de Jimmy que de Moshe Rabbeinu. Il lui dit dans l'oreille... t'es une fille extraordinaire, je t'aime et je t'adore. En vérité, il répète les paroles d'une chanson qu'il a traduite de l'anglais. Elle dit, écoute, c'est la première fois qu'on me parle avec une telle sincérité. Il sort dehors devant la boîte, il lui dit, tu sais, t'es une fille super, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec une puissance et une intensité qui aussi dégagée. Elle dit, mince, mais. Alors, elle dit, puisqu'il m'a donné ça, il m'a donné le droit d'exister, alors moi, je vais lui donner autre chose à la place. Ça tombe bien, c'est ce qu'il voulait. Un bataille, on peut prêter un pot de peinture? Non, on peut prêter un pinceau, on ne peut pas prêter un pot de peinture. Ma fille, tu veux exister? Une mère, elle doit dire à son fils. Ou à sa fille. Un père, il doit lui dire. Écoute, ma fille, tu arrives à un âge où ça t'intéresse le regard des autres. Pourquoi? Parce que le regard des autres, c'est un encouragement à l'existence. Sache que les gens qui vont te regarder, il faut qu'ils te regardent comme une personne, pas comme un objet. Donc les gens qui te regardent comme un objet, il ne faut pas que tu t'approches d'eux parce qu'ils vont te consommer comme une bonne poire. Donc les gens qui vont te considérer comme une personne, ils n'auront pas besoin de te toucher. Par exemple, moi, quand je te considère, je ne te touche pas. Donc si les gens qui veulent te toucher, ce n'est pas des gens qui te considèrent comme une personne, c'est des gens qui te considèrent comme un objet. Maintenant, si toi tu veux exister, il faut que tu te respectes. Donc il faut que tu rencontres quelqu'un qui te respecte en tant que personne. Et puisque respecter, c'est donner le droit d'exister, donc quelqu'un qui t'aide à exister, pour toi, c'est une personne qui t'aime. Mais quelqu'un qui t'empêche d'exister parce qu'il te consomme, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Donc tu vas apprendre à ta fille à ne pas tomber dans les pièges du premier dragueur à 2,30 francs la tonne. C'est pas grave. Alors les gens ils disent, ah mais moi je peux pas parler de ça avec mes enfants. Eh ben c'est pas grave, t'en parleras avec le gynécologue. Un bataille c'est clair, pourquoi on va baratiner? Pourquoi on va se mentir? Chaque fois que je dis ça, les gens disent Chaz v'shalom. Maintenant, il y a dit, avant la moyenne c'était 14 ans, maintenant c'est 12 ans enceinte. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah! vous voyez le mal partout. Je sais pas, moi, regarde dans la rue. Regarde. Rabotai, on n'a pas encore réussi à savoir quand quelqu'un se connecte sur Internet qu'elle agit là. Mais il y a un département du FBI qui poursuit les gens qui, dans les forums, qui draguent des jeunes filles. Mais le type, il a 45 ans. Et la fille, elle a 12 ans. Et lui, il parle comme un type de 12 ans. Et il drague, il la convoque dans un appartement. Et elle, elle l'a rencontré sur Internet. Rabotai, on ne sait pas la personne qu'elle agit là. Vous comprenez ou non? Il n'y a pas un truc sensitif dans la touche pour savoir qu'elle agit là. Comme ça, tu dis, allez, je t'en prie, il faut être cool, il faut être branché. Laisse-le, s'amuse, laisse-le. Comment ça se passe sur Internet? Rabotai, Internet, c'est pas vraiment net, c'est Internet. Si c'était vraiment net, on le serait. On sait que c'est pas entièrement net. Alors faites attention un petit peu aux connexions. C'est comme ça. Quelqu'un comprend maintenant. Maintenant il se dit, moi, je suis un homme. Je suis devant Hachem. Et moi j'ai ma conscience. Mes enfants, pendant une certaine période, ils n'ont pas de conscience. Donc là, c'est moi qui vais être la conscience de mes enfants. Donc c'est là que je vais intervenir physiquement. Pendant une deuxième période, Baruch Hashem, comme je les ai bien éduqués, ils n'ont plus besoin de ma conscience parce qu'ils ont leur conscience. Maintenant, si moi je le considère comme un gamin, il n'a aucune chance de devenir un être conscient. Donc il faut que je fasse une grande gymnastique intellectuelle pour passer de l'état d'éleveur à l'état d'éducateur. C'est pas la même chose. Encore une fois, jusqu'à 14 ans, tu le nourris. À partir de 14 ans, tu négocies. Alors il dit à Volbeu un secret extraordinaire. Je vous dis tout de suite, c'est très dur à le mettre en place. C'est quoi? C'est qu'un enfant, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il faut lui laisser le choix. Il faut lui laisser le choix. Mais, il faut le prévenir. C'est-à-dire qu'un enfant, il veut dire, je veux faire ça. Tu dis, mon fils, tu peux le faire. Je ne peux pas t'empêcher de le faire. Tu es un homme. Tu peux le faire. Mais sache, pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison, moi, je pense que ce n'est pas bien. Maintenant, je te laisse le choix. Il y a des parents qui disent, non, moi, je ne laisse pas le choix. Et si l'enfant, il dit oui? Aujourd'hui, tu l'enfermes dans sa chambre. Demain, il a 19 ans, tu vas être obligé de l'enfermer psychologiquement. Il va falloir que tu lui casses son envie d'exister pour qu'il t'écoute. Maintenant, il va t'écouter parce qu'il n'existe plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec un zombie dans la maison? La seule manière qu'il devienne adulte, c'est qu'il se confronte à la réalité. Comment il se confronte à la réalité? Parce que tu lui donnes le choix. Et si tu vas me dire, moi je crois pas, alors je lui dis, c'est écrit mes forages dans la Torah. C'est écrit mes forages dans la Torah, mais les gens ne savent pas lire la Torah. C'est marqué, Natati lefanecha et ahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort, ou bacharta bahaim. Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et je te conseille la vie. Alors il y a une marloquette. Il y en a qui disent que bacharta bahaim c'est une mitzvah. Il y en a qui disent que bacharta bahaim c'est un conseil. Qu'est-ce que ça veut dire cette marloquette? C'est quoi la marloquette? Un, il dit, c'est un commandement. Tu es obligé de choisir la vie. L'autre, il dit, non, c'est pas un commandement, c'est un conseil d'Hachem. Moi, je comprends pas. « Akol bide shamayim chus mirat shamayim » Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Comment Hachem peut dire devant toi, tu as la vie et la mort, donc tu as libre arbitre, mais tu choisis la vie. Alors, tu n'as plus de libre arbitre? Oui ou non? Tu n'as plus de libre arbitre? C'est vrai? C'est faux, Rabotai. C'est faux. Rabotai, ouvrez bien vos oreilles. C'est quoi Hachem? Hachem, pour nous, c'est le top niveau de la conscience. La sous-conscience, c'est le Père. Et ensuite, la sous-conscience, c'est ta conscience personnelle. Un homme, il a une conscience personnelle. Ensuite, il a conscience de son père. Ensuite, il a conscience de Dieu. C'est quoi la Yirat Shamayim? La Yirat Shamayim, c'est la projection de la conscience personnelle. Normalement, quand quelqu'un ne fait pas d'Averot, il ne fait pas d'Averot parce qu'Hachem lui a demandé. Mais sa conscience, elle lui dit la même chose qu'Hachem. Maintenant, pourquoi quelqu'un il rentre en conflit avec ses parents? Parce qu'il sait ce qu'ils pensent, ses parents. Puisque ses parents, ils pensent le contraire de lui. Mais lui, comme il n'existe pas encore, il est soumis au Yetzirara. Donc, il a l'impression que s'il écoute ses parents, il va contre lui-même. Parce qu'il ne sait pas que lui-même, ce n'est pas son Yetzirara. Alors, quand les parents, ils éduquent les enfants dans la crainte d'Hachem. Alors, les enfants, à un moment, ils disent, moi, papa, je te crains. Alors, les parents doivent dire, tu sais, c'est pas moi qu'il faut craindre, c'est Hachem. Alors, c'est quoi Hachem? Hachem, c'est l'hyperconscience de l'homme. Donc, quand un homme, regardez bien, il veut tracer une droite entre sa conscience et la conscience de son père, quand il prolonge cette droite, elle doit aller jusqu'à Hachem, cette droite. Donc, quand un homme, il a éduqué à apprécier la conscience de son père et de sa mère, il a apprécié la conscience d'Hachem. Maintenant, il n'y a pas de différence entre avoir une bonne conscience et avoir la conscience d'Hachem dans la tête. Et vous voulez la preuve? Ça aussi, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ils ont demandé une bracha à ses élèves avant de mourir pour qu'ils aillent au baba. Il leur a dit que la crainte d'Hachem soit sur vous comme la crainte de l'homme. Ouais, ils ont dit c'est tout. Ils ont dit sachez, quand un homme il veut fauter, il regarde, est-ce que un homme le voit? Rabotai, c'est quoi un homme? T'as envie de faire une belle avéra. Pourquoi ça te dérange si quelqu'un te regarde? Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, tu veux la faire. Si personne ne te voit, ça ne te dérange pas. Si quelqu'un te voit, ça te dérange. Pourquoi? C'est parce qu'il me regarde. Et alors? Mais derrière les yeux, il y a une conscience. C'est la conscience de l'autre qui te dérange. Tu sais pourquoi? Parce que la conscience de l'autre, attention, elle assiste à ton inconscience. C'est très honteux d'être observé dans un accident d'inconscience. Mais rabotaille, derrière le corps de l'autre, il y a sa conscience. Mais derrière la nature, il y a Dieu. Maintenant, si déjà un homme, il a peur que l'autre le voit pour faire une avéra, c'est parce qu'il y a une conscience derrière le corps. Mais derrière la conscience de l'autre, il y a la neshama. La neshama, c'est un morceau de Dieu. Donc, comme tu es gêné par la neshama qui est dans l'autre, tu dois être gêné par Dieu qui est derrière la nature. Donc, il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, le jour où vous aurez aussi peur d'Hachem que vous avez peur de l'homme, c'est-à-dire que pour vous, la réalité de Dieu, ça sera la même que la réalité de l'homme, donc vous aurez la crainte d'Hachem. Or, qu'est-ce que c'est la réalité de l'autre? C'est la conscience de l'autre. Mais la réalité de l'autre, tu la portes en toi, puisque ta conscience, elle t'empêche de faire ce que la conscience de l'autre t'empêche de faire. C'est-à-dire qu'un homme qui a de la conscience, il n'a pas peur qu'on le regarde pour éviter de faire des avérotes. Donc la conscience de l'autre, c'est comme la conscience de l'homme, et c'est comme la conscience d'Hachem. Ou non? Donc là, Yirat Shamaim, c'est un homme qui a de la conscience. Oui ou non? Qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est ce que ton père t'a donné. Comment il te l'a donné? Parce que quand tu étais inconscient, il avait la conscience à ta place. Et quand tu es devenu un adolescent, il t'a dit tu es libre d'agir selon ta conscience. Ça, c'est l'éducation. Oui ou non? Donc, je me rappelle plus pourquoi j'ai parlé de ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh, c'est pas vrai. Non, mais avant, l'exemple. Dommage, un bon haïdouche comme ça, il est parti. À l'Ahlé d'Arco. Bon. Deux. Oui, c'était avant. Non, mais juste avant, j'ai dit un truc. Ça m'a. La conscience. Là. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir à Rabotai que nous sommes les éducateurs de l'enfant. Et que les éducateurs de l'enfant, c'est quoi? C'est des gens qui ont compris que si nous sommes indépendants, nos enfants sont indépendants. Donc, quand nous, on travaille pour notre propre indépendance, on travaille pour l'indépendance de l'autre. C'est la même chose. Tu veux des enfants indépendants, travaille à ton indépendance. C'est pas la peine de mettre l'enfant dans la meilleure école du monde si tu sais que toi, t'as pas réglé tes problèmes personnels. Donc, travaille à régler tes problèmes personnels. Moi, souvent, j'ai des adolescents qui viennent chez moi. Ils me posent une question. Mais qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, il me dit, voilà, je suis avec un garçon, il est à moitié juif. Je dis, mais moitié de quel côté? Alors, il me dit, bon. Il m'a dit, côté de la mère, il n'est pas juif. Je dis, alors c'est fini l'histoire. Elle me dit, oui, mais il se sent juif, et il se sent proche, et puis il a un nom juif, il a vécu toujours, vous savez, comment on appelle la petite Jérusalem? Le sentier, d'accord? Le sentier. Donc, je lui dis, écoutez-moi bien. Je lui dis, vous êtes amoureuse. Elle me dit, pourquoi je suis là? Je lui dis, qu'est-ce que vous auriez dit à votre fille? Ah, ça fait mal, ça. Alors, je lui dis, réfléchissez, ne vous énervez pas, réfléchissez. Qu'est-ce que vous auriez dit à votre fille? Je lui ai dit, laisse tomber. Je lui ai dit, alors ce que vous êtes capable de dire à votre fille, vous pouvez le dire à vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas moins que votre fille. Et à votre fille, vous lui dites le Hémet. Alors le Hémet de votre fille, il est Hémet pour vous. Maintenant, c'est quoi la mère et la fille? La mère, c'est la conscience. Et la fille, c'est la conscience. Les parents et les enfants. Donc tout le monde à l'intérieur de soi, il porte un côté parent et un côté enfant. Comment on appelle nous? On appelle maturité, immaturité. Conscience, inconscience. Côté rêve, côté réalité. Yetzerara, Yetzeratov. Donc dis-moi, ce que tu serais capable de dire à ton enfant, tu peux te le dire à toi. Alors je te dis, tu sais quand t'as peur, quand t'es pas à l'aise, quand tu sais pas ce que tu veux, dis-toi ce que t'aurais dit à ton enfant. Tu dis, mais je ne sais pas ce que j'aurais dit à mon enfant. Je lui fais gaffe, t'es pas prêt à avoir des enfants. Maintenant, tu sais ce que t'aurais dit à ton enfant. Dis-le toi. Et si tu vas me dire, mais moi je suis pas mon enfant, mais la conscience de ton enfant, ça sera toi. Donc si tu n'as pas de conscience, tu ne peux pas avoir de conscience pour ton enfant. Mais si tu as une conscience, tu auras une conscience pour ton enfant. Donc réponds-toi à ta question. Ah, tu paniques? Rassure-toi. Tu n'es pas clair, mais les choses au clair. Tu ne comprends rien? Explique. Tu es là, vous comprenez ou non? Ça veut dire qu'en fin de compte, on perpétue la même personne. C'est pour ça qu'un adolescent, il porte ses enfants en lui. Vous savez bien, la génétique. Elle te dit, dans tes poches, tu contiens tes enfants. Seulement, ils sont sous forme de graines. Un jour, tu les mets dans une femme, hop, ils deviennent des fleurs, ils grandissent. La graine, elle contient la graine. La graine, elle contient la fleur. La fleur, elle contient la graine. La graine, elle contient la fleur. Donc, le fils, il est dans le père, il est dans le fils. Donc, c'est pas étonnant que les parents ressemblent les enfants et que les enfants aux parents. Donc, quand toi, regardez bien, quand toi, tu contiens tes enfants à l'état de graine, donc tu es encore adolescent ou tu n'es pas marié. Donc, profites-en pour travailler sur la qualité de tes graines, puisque tu les as pas encore implantées. Tu fais de la recherche expérimentale. En graines, mon frère. Donc, améliore tes graines. On appelle ça le travail des midotes. Après, tu les as mis dans une femme. Elle aussi, elle a travaillé ses midotes. Donc maintenant, ils viennent la fleur. La fleur, elle vient comme la graine. Le patrimoine génétique de la graine, c'est le même patrimoine génétique que la fleur. Bon, maintenant que la fleur, elle est là, avec ce qu'elle a comme caractéristique, on va travailler la fleur. Mais le travail que tu as fait sur la fleur et le travail que la fleur a fait elle-même, elle l'a fait sur ses propres graines. Donc quand tu travailles sur toi-même, tu travailles sur tes enfants. Et quand tu travailles sur tes enfants, tu travailles sur tes petits-enfants et sur tes arrière-petits-enfants. C'est pour ça, c'est un truc incroyable que je viens de comprendre, mes enfants. Merci beaucoup. Pourquoi il y a une mitzvah d'enseigner la Torah à son petit-fils? C'est marqué dans la Gemara. Celui qui reçoit la Torah de son petit-fils, c'est comme si le petit-fils il avait reçu la Torah du Harsinaï. J'ai compris maintenant. Rabotai, le fils, c'est une occasion pour le père de régler ses problèmes personnels. Mais le petit-fils aussi, c'est une occasion pour le grand-père de régler les problèmes personnels. Donc les choses que le grand-père n'a pas réussi à régler avec son fils, eh ben il n'a qu'à les régler avec son petit-fils. Donc c'est une mitzvah d'enseigner à son petit-fils. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va dire, bon, c'est bon, mais le grand-père, en enseignant au père, au petit-fils, il empêche le père de jouer son rôle. Or le père, il a besoin du fils pour devenir lui-même. Oui ou non? C'est pas grave, ils vont faire complémentaire. Une partie, le père, il va enseigner. Une partie, le grand-père, il va enseigner. Maintenant, le grand-père ne va jamais enseigner la même chose que le père, puisque le père a moins de recul que le grand-père. Donc, l'enseignement du grand-père, il est plus projeté. L'enseignement du fils, il est plus spontané. Donc, l'enfant, il va recevoir, regardez bien, un enseignement de son père spontané, un enseignement de son grand-père projeté. Il va cumuler les deux, il va acquérir une expérience de folie, donc c'est bon pour l'enfant. Et d'un autre côté, c'est bon pour le grand-père, parce que le petit peu qu'il n'avait pas fini avec son fils, il va le finir avec son petit-fils. Et le père, c'est bon pour lui que son fils, il apprenne avec son grand-père, parce que grâce à ça, il va pouvoir finaliser des côtés que le fils n'a pas encore réglés. Donc il lui fait gagner son... Donc le père, il fait gagner du temps au fils et au petit-fils. Vous avez compris pourquoi il a une mise en enseigne au petit-fils? Oui ou non? Voilà. Maintenant, puisqu'il faut... C'est écrit noir sur blanc, il faut conclure. Donc, puisqu'il faut conclure... Enfin, dommage, on était bien parti. Mais je ne veux pas vous fatiguer. Non, parce que monsieur Monsonego, il m'a téléphoné, il m'a fait un cours sur ça. Il m'a fait un petit listing. Blainara, c'est presque une salle de torture. Il m'a parlé de tout. Je ne veux pas la lire. Et ça, et ça, et ça, et ça. J'ai dit en venant, j'ai dit, comment je vais parler de ça? J'ai dit, la seule manière de parler de tout, c'est de ne pas avoir de plan. Alors bon, vous avez assisté à un cours qui n'a pas de plan. Bon, il y a pire. D'accord. Il y a un plan vérité. Maintenant, il y a un plan qui s'est formé avec le cours. Mais il n'y avait pas de plan préliminaire. C'est la feuille. Je ne vais même pas regarder. Bon. Qu'est-ce qu'on a, Baruch HaShem? Ensemble, on a vécu une Torah un peu vivante. D'accord? Plutôt une Torah redite. Ce qui est important de savoir, c'est que le Shulchan Aruch du Chinour, c'est le Shulchan Aruch de votre existence. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Halachot Chinour. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des livres qui sont écrits parce que malheureusement, même les bases, on ne les a pas. Donc, vous allez prendre des livres pour avoir les bases. À partir de ces bases, vous allez travailler, vous allez construire, vous allez évoluer. En évoluant pour vous, vous allez évoluer pour vos enfants. En faisant évoluer votre couple, vous faites évoluer vos enfants. En créant la combinaison et la conjonction, vous pouvez construire vos enfants. Et si vous me dites, mais j'ai déjà eu mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Rabotai, les jamais perdus. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a deux courbes qui s'opposent. Il y a une courbe qui s'appelle le temps, une courbe qui s'appelle l'intensité. Je suis d'accord avec vous que le temps, ça prend du temps. C'est vrai. Le temps, ça prend du temps. Et le temps qui est passé, il est passé. Et Maïda Ava Ava, ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est vrai. Mais il y a une deuxième courbe. Baruch HaShem, il y a une deuxième courbe qui s'appelle l'intensité. L'intensité, c'est un accélérateur de temps. Quand vous vivez intensément quelque chose, vous pouvez rattraper. Celui-là, c'est un rachat. Ça fait 20 ans qu'il fait des Averot. Maintenant, en 2 ans de Teshuva, il a rattrapé 20 ans d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le temps, il est dans le temps. Parce que le temps, il fait partie du temps. Mais la teshuva, elle fait partie de l'intérieur de la personne. Et l'intérieur de la personne, elle est hors temps. Vous savez comment on crée le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur ? Ça s'appelle l'authenticité. L'authenticité. Donc vous, vous allez prendre de l'authenticité. Vous allez constater les erreurs que vous avez faites. Et vous allez réparer ces erreurs avec une relation authentique. Rabotai, tant que l'enfant il est vivant, tant que le père il est vivant, tant que la mère elle est vivante, tant que la fille elle est vivante, les parents ils peuvent aller voir les enfants. Ils peuvent leur dire, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris les erreurs que j'ai faites. Moi, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'avais pas les ustensiles. J'ai pas appris ce métier. Peut-être que j'avais pas réalisé mon être intérieur. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là. Je peux te donner toutes les réponses que tu veux. Je peux prendre du temps avec toi. Je peux donner de l'amour. Je peux prendre ce que tu veux pour toi. Et je suis prêt à réparer tout ce qui a été fait. Avec la plus grande authenticité. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est profond. Mais moi, je préfère cette douleur-là maintenant que l'enfant, il est devant le cercueil de son père et il dit, papa, j'aurais voulu te parler. Pourquoi je t'ai jamais parlé? Alors, je te dis, moi, tu vas précéder ça. Les parents, ils vont laisser les enfants, ils vont dire maintenant on fait le shalom, on va s'asseoir, on va vraiment parler. Papa, je sais que tu peux me dire des choses, dis-le-moi. Attention, c'est une grande violence. Sachez que la tendresse, c'est la plus grande violence qui existe. Parce que maintenant, il y a une grande remise en cause. Ou le père, il va prendre le challenge, il va parler avec son fils. Ou le fils, il va prendre le challenge, il va parler avec son fils, avec son père. Ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que celui qui ne l'a pas tenté, il n'a pas réussi. Mais celui qui le fait, avec la vraie authenticité, alors il peut régler le problème, parce que si Rabotai est quelqu'un, il peut parler avec authenticité avec Dieu, et Dieu son père, Avinouche Bachamaim, il lui fait gagner les années qu'il a perdues. Alors c'est sûr que si un homme il parle avec authenticité avec son fils, ou qu'un fils il parle avec authenticité avec son père, il peut rattraper les années perdues, et c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça fait mal au ventre, et c'est pas grave. Il vaut mieux que ça fasse mal au ventre ici, que la personne après la mort, elle se pose la question, et elle voit qu'elle peut plus réparer, et là ça fait très mal, parce que c'est éternel. D'accord ? Donc a priori, il faut bien se conduire. Si on a postériori, c'est pas grave, on peut rattraper. On n'a pas besoin de faire un procès à ses parents. Si grâce à son psychiatre, on sait pourquoi on fait pipi au lit, c'est pas la peine de marquer sur la plaque, c'est à cause de mon père. Il faut se dire, je vais rattraper la chose. Si je peux le rattraper avec les parents, je le fais. Si je peux pas, je dois le rattraper moi-même. Parce que mes parents, de toute façon, ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, je vais pas faire le procès de mes parents, je vais faire mon propre procès. Et si vous me dites, non, c'est pas comme ça, alors je vais vous dire la preuve et je vais terminer avec ça. Expliquez-moi pourquoi à 120 ans, un homme, il arrive seul devant Dieu. Pourquoi on est seul pour être jugé? Pourquoi on est seul? On devrait tous venir en même temps. Pourquoi on vient seul? Et Dieu dit, pourquoi t'as pas fait la mitzvah? Pourquoi t'as pas fait la Torah? Pourquoi t'as pas évolué? Pourquoi t'as pas été toi-même? Pourquoi Dieu, il nous parle nous seuls? Alors vous me dites, mais c'est normal, puisque je suis seul fautif. C'est faux. Puisque pendant toute ta vie, à chaque fois qu'on t'attrape, t'as fait une bêtise, tu dis, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de... T'as tout le temps des gens pour dire, donc, Dieu, il devrait juger tout le monde en même temps, qu'on vient tous là-haut, et comme ça, quand Dieu nous accuse, on dit, c'est à cause de lui. Pourquoi on vient seul, Rabotai? Parce que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les chances que t'as eues, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les bonheurs, tu es seul responsable de tes actes. Seul responsable de tes actes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bien réfléchir, tu vas bien te casser la tête, tu vas savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu vas savoir qui sont tes enfants, tu vas comprendre qui sont tes parents, tu vas savoir qu'est-ce que tu peux apporter à ton couple, tu vas savoir ce que tu peux tirer de ton couple et tu vas savoir comment apporter à chaque enfant ce qu'il a besoin dans son cadre, dans sa personnalité, dans son élément et dans son temps, c'est-à-dire dans le temps que Dieu t'a octroyé pour pouvoir l'éduquer. Voilà.